Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Europe 1, vendredi 11 décembre 2020, vous écoutez Le Monde Changer. Vous le savez sans doute hein, déjà ce matin, l'actualité n'est pas forcément réjouissante. Le déconfinement, entre guillemets, Castex annonce de tristes fêtes, c'est la une du Parisien. Alors ce matin, on va en parler bien sûr, mais on va aussi essayer de vous changer les idées, on va même vous en mettre plein les oreilles. Le géant américain Disney a fait fort cette nuit. Très fort, annonçant séries, films d'animation et longs métrages à venir pour les mois à venir. Les 101 Dalmatiens, par exemple, en version filmée, Pinocchio aussi. Et bien sûr, Rogue Squadron, un nouveau Star Wars pour Noël 2023. Le premier réalisé par une femme, ça se précise. Pas moins d'une dizaine de séries autour des Jedi et des vaisseaux spatiaux, des sabres laser, le retour de Dark Vador, rien que ça. Star Wars, mais aussi des films, des séries autour des super-héros Marvel. Un Black Panther 2, notamment Disney, Marvel, Star Wars, Pixar. On va en parler ce matin, c'est de la culture. C'est de l'économie aussi. La plateforme Disney+, le merchandising, nous serons en direct de Los Angeles dans nos journaux avec notre correspondant Benoît Clerc. C'est vendredi et même si l'actualité n'est pas réjouissante, on va y arriver à vous remonter le moral ce matin. Alors si vous n'êtes pas Star Wars, Marvel, peut-être aimerez-vous Julien Clerc. Nouvel album le 12 février prochain, ça s'appellera Terrien. Nouveau single que Julien Clerc dévoile sur Europe 1 ce matin. L'immense Julien Clerc à 7h40 dans le tête-à-tête Europe Matin. Voilà quelques éléments du programme. Très bon réveil à toutes et à tous. Nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo. Bonjour Laurent.
Bonjour Mathieu.
J'ai essayé de mettre un peu de soleil avec la Californie, mais je ne suis pas sûr que ce soit votre météo.
C'est pas gagné pour moi. Hein. C'est pas gagné le soleil. En tout cas, nous aurons des éclaircies. Donc, il y aura forcément des averses. Et ce, sur une bonne partie de la France. Hein. Toutes les régions qui bordent l'Atlantique, qui bordent la Manche, la vallée de la Loire, le Poitou-Charentes, le Sud-Ouest. Nous aurons des éclaircies dans l'après-midi, dans ces contrées, avec du vent. Mais malheureusement, ou heureusement selon le cas, dans les régions de l'Est, la pluie est là et elle sera bel et bien là. Parce qu'elle est quand même solide. Hein. Le Nord, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Auvergne, Vallée du Rhône, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, les pluies vont gagner même la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes en donnant quelques chutes de neige. Donc vous voyez que c'est toute la partie est de la France va retrouver la pluie qu'elle n'a pas eue hier. Et je termine quand même en parlant de la région parisienne. La pluie est là, et la pluie va rester, et ensuite ce seront des averses. Alors l'imperméable obligatoire aujourd'hui, vous l'avez compris, des températures qui sont beaucoup plus douces, ça c'est la bonne nouvelle. Nous gagnons 2 à 3 degrés au thermomètre, et nous vous parlerons du reste tout à l'heure. Vous verrez que si vous devez choisir entre le samedi et le dimanche pour sortir, allez, prenez le dimanche.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1, bon réveil.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On écoute Le Monde Changer. Il est 7h.
C'est déjà trop lourd psychologiquement. Du coup, je ne sais pas s'il suffit de rejoindre la maison de ses amis avant 20h et d'en repartir après 6h du matin. Ça va choquer personne pour une soirée de Nouvel An, je crois.
Comme cette étudiante, on se demande tous comment on va passer la soirée du Nouvel An. En tout cas, il faudra respecter le couvre-feu à 20h le 31, seule exception le soir de Noël. À partir de mardi, déconfinement dans la journée, fin des attestations et tous à la maison le soir. On fera le point sur ce qui change. En revanche, ce qui ne bouge pas, c'est la fermeture des lieux de culture. Rendez-vous en 2021 pour les théâtres ou les cinémas. Dans ce journal, la ruée attendue dans les pharmacies pour se faire tester. Rendez-vous obligatoire pour avoir une place. Et puis Jane Birkin sort son nouvel album aujourd'hui.
Oh pardon, tu dormais.
Je ne dors plus, tu vois bien.
Oh pardon, tu dormais, duo avec Étienne Dao qui a mis sa patte sur ce nouvel album.
Beaucoup de musique ce matin et ça fait du bien. Juste après ce journal, malgré la crise, les très bons chiffres de l'immobilier, ça c'est l'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet. Antoine Griezmann s'engage pour la minorité ouïghour et rompt son contrat avec Huawei, l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On pourra faire la fête en petit comité à Noël, mais pas le soir du Nouvel An. Voilà en substance qu'a annoncé Jean Castex hier. Au cas où ça vous aura échappé, le déconfinement sera plus progressif que prévu.
Pour le 31, pas la peine d'imaginer cotillons, pétards et autres langues de belle-mère. L'idée, c'est d'éviter de prendre des risques. Hélène Terzian a suivi les annonces du Premier ministre avec deux étudiantes qui ne l'entendent pas de cette oreille.
Blottis dans le coin du canapé de la salle commune, devant leur écran d'ordinateur, Gaëlle et Alice entendent ce qu'elles redoutaient.
Nous rétablirons un couvre-feu respecter.
Pas de dérogation pour le nouvel an.
Pas de nouvel an. Le couvre-feu à 20h, c'est un peu rude, je dois dire quand même.
Un coup dur pour ces deux étudiantes en médecine qui attendaient le nouvel an pour souffler.
J'aurais préféré qu'ils inversent, qu'on n'ait pas de dérogation pour le 24, mais qu'on ait le droit de sortir le nouvel an. Bah, on traverse une période compliquée, surtout en tant qu'étudiant, avec nos cours en ligne. On avait peut-être l'espoir d'enfin tirer un trait sur 2020.
Une soirée endiablée avec les étudiants de la CTU, il faudra oublier, mais Alice ne peut se résoudre à passer en 2021 seule dans sa chambre.
C'est déjà trop lourd psychologiquement. Du coup, je sais pas s'il suffit de rejoindre la maison de ses amis avant 20h et d'en repartir après 6h du matin, ça va choquer personne pour une soirée de nouvel an, je crois. Donc, évidemment, on rejette les grosses soirées, mais c'est vrai que si c'est l'occasion de retrouver 5 personnes pendant une nuit, ça me dérangerait pas de le faire.
Gaëlle, quant à elle, envisage de contourner la restriction en retournant plus vite que prévu à Londres où elle étudie cette année. Elle espère y passer une soirée avec un peu moins de contraintes.
Bonjour Guillaume Bié.
Bonjour.
Très concrètement, quelles seront les nouvelles règles ?
Alors, en résumé, dès mardi prochain, c'est déconfinement pendant la journée et couvre-feu le soir et la nuit. En clair, nous pourrons à nouveau nous déplacer librement la journée sans avoir besoin d'une attestation et d'un motif valable, même pour changer de région, même pour partir en vacances. Mais à partir de 20h et jusqu'à 6h du matin, là, couvre-feu sur tout le territoire, sortie interdite, à quelques exceptions près pour lesquelles il faudra une dérogation et un justificatif. Si vous rentrez tard du travail, si vous devez aller à l'hôpital ou à la pharmacie de garde ou encore sortir le chien. En fait, ce sont les mêmes règles que lors du précédent couvre-feu, rappelez-vous, fin octobre. Si vous vous déplacez et que votre train arrive après 20h par exemple, votre billet servira de justificatif. En revanche, si vous prenez la route, essayez d'arriver avant l'heure limite. Ce couvre-feu strict sera aussi valable la nuit du Nouvel An. Les fêtes, les rassemblements seront interdits. La sanction est toujours la même, une amende de 135€. La seule exception à ce couvre-feu, c'est la nuit de Noël. Une trêve entre le 24 et le 25 décembre.
Merci Guillaume Bié, vous le rappeliez, 135€ d'amende pour les contrevenants et en cas de récidive dans les 15 jours, ça passe à 200. Depuis le début du deuxième confinement, les forces de l'ordre ont effectué près de 3 millions de contrôles, résultat 285 000 verbalisations.
Pour le monde de la culture, c'est un peu la chronique d'une catastrophe annoncée. Hein. Pas de réouverture en 2020, ce sera au mieux, le 7 janvier prochain pour les cinémas, les théâtres ou les musées.
Nouvelle difficile à accepter pour un secteur qui a déjà perdu plus de 80% de son chiffre d'affaires cette année. Hier matin, dans ce journal, on entendait Frédéric Biessy, directeur du théâtre parisien La Scala, qui se préparait à une réouverture la semaine prochaine.
Remettre un théâtre en route, c'est comme remettre un paquebot en route. C'est énorme, il faut réengager tout le monde, il faut que la com parte. Je vous en prie, monsieur le Premier ministre, faites en sorte qu'on rouvre.
Et non, pourtant, La Scala, comme tous les théâtres, restera fermé. Son directeur est aujourd'hui totalement anéanti parce qu'il vit comme une sanction.
Franchement, je trouve la sanction extrêmement lourde. Et puis surtout, ce que je comprends pas trop, c'est pourquoi on est les seuls à être sanctionnés, quoi. Je veux dire, à un moment, on n'ouvre pas les théâtres, on n'ouvre pas les cinémas, mais on laisse ouvert les TGV, les trains, les avions, les métros. Enfin, je comprends pas. Pourquoi nous, qu'on nous explique quel est le danger de venir dans un théâtre le soir avec toutes les mesures qui sont prises de précaution où les gens sont masqués, une place sur deux. Enfin, est-ce que c'est vraiment plus dangereux que de prendre le métro ? Sincèrement, on n'arrivera pas à me le faire croire, non.
Frédéric Biessy, directeur d'un théâtre parisien, joint par Angèle Châtelier.
Alors voilà pour les nouvelles annonces du gouvernement. Vous faites peut-être partie du tiers de Français qui compte se faire tester avant Noël. Attention à l'embouteillage.
Et oui, Olivier Véran a beau alerter sur les risques de relâchement en cas de test négatif. Les laboratoires, mais aussi les pharmacies, s'attendent à un monde fou juste avant les fêtes, comme à Muret, près de Toulouse, où s'est rendu Benjamin Péter.
Là, c'est une famille entière, deux personnes ici, deux personnes, là c'est pour le 24.
Philippe Vergne teste uniquement sur rendez-vous, en drive, derrière son officine et dans son agenda, les créneaux des derniers jours avant Noël se remplissent d'heure en heure.
Ce matin, on a eu 3-4 familles qui ont appelé. Les journées avant les grands départs vont être assez chargées.
Pour faire face à ce rush, il a commandé près de 150 tests antigéniques et entre le 19 et le 24, une salariée sera affectée à cette tâche à temps plein.
J'ai trois employés maintenant qui vont être formés la semaine prochaine pour pouvoir se relayer un peu. J'ai la chance d'avoir ma fille qui est pharmacienne qui travaillera en plus et qui ponctuellement viendra nous aider, ce qui fait qu'on pourra déléguer une personne avec une rotation sur la journée pour faire les tests. Au-delà de ça, il faut s'approvisionner en tests. Actuellement, il faut bien anticiper puisque les laboratoires ont à peu près une dizaine de jours de délai.
Mais ce qu'il recommande, c'est d'anticiper, prendre rendez-vous dès maintenant chez son pharmacien parce qu'il prévient, il sera très difficile de tester des patients qui se présenteront au dernier moment. À Muret, Benjamin Péter, Europe 1.
Voilà, vous l'avez compris, rendez-vous vivement conseillé si vous voulez vous faire tester. Et puis on l'apprend à l'instant, le vaccin du français Sanofi ne sera pas disponible avant la fin d'année prochaine. Les résultats des premiers essais cliniques sont moins bons qu'espérés.
7h07 sur Europe 1. Libérer la parole des victimes d'inceste, c'est l'une des missions phares de la Commission sur les violences sexuelles commises sur les enfants. 6 700 000 victimes, selon une étude récente.
Et cette instance présentée hier, elle sera présidée par Elisabeth Guigou, l'ancienne garde des Sceaux, qui pour l'occasion s'est rendue dans un lieu unique en France, à Agen, dans le Lot-et-Garonne, la maison Jean Bru, qui depuis plus de 20 ans accueille des jeunes filles victimes d'inceste sur décision d'un juge. Pour Europe 1, Virginie Riva a pu visiter cette association qui ouvre très rarement ses portes.
Notre premier objectif, quand les jeunes filles arrivent, c'est de les protéger.
Les protéger de leur entourage, poursuit William Touzan, directeur de la maison Jean Bru, qui accueille 25 jeunes filles victimes d'inceste de 10 à 21 ans. Ici, on y tient chacune à sa chambre individuelle. Ophélie, 15 ans, vient d'arriver il y a 2 semaines.
Je me sens bien parce que j'ai mon intimité, j'ai ma salle de bain. Au début, c'était un peu compliqué parce que je suis à 950 km qui me séparent de chez ma maman.
En pleine procédure judiciaire, Ophélie ne peut donner les détails de son histoire. Tous les contacts avec sa mère sont décidés par un magistrat et leurs appels encadrés par un référent. Ici, des éducateurs sont présents 24 heures sur 24. Mais l'idée dans cette maison, c'est aussi de reprendre petit à petit une vie normale. Dès janvier, Ophélie ira au lycée. Un endroit qui a été salvateur pour Angélique, 32 ans, abusée enfant par son beau-père.
J'étais victime de 7 ans à 9 ans et j'étais placée sur suspicion. Et donc j'ai révélé finalement ce qui m'était arrivé quand j'avais à peu près 10 ans. Donc ça faisait un an que j'étais à la maison d'accueil où je me suis rendu compte au travers de discussions qui ont pu avoir lieu avec d'autres jeunes filles que finalement ce qu'elle subissait, c'est aussi ce que je subissais.
Angélique est désormais maman de 2 enfants et elle accompagne à son tour les jeunes filles de la maison en partageant son expérience.
Un reportage de Virginie Riva à Agen. Un appel à témoignages sera lancé en début d'année prochaine pour recueillir la parole des victimes via une plateforme téléphonique. Nicolas Sarkozy fixé sur son sort le 1er mars prochain. Hier, au dernier jour du procès des écoutes, l'ancien président a évoqué le chemin de croix qu'a été cette affaire. Mais si c'était le prix à payer pour que la vérité chemine, a-t-il dit, je suis prêt à l'accepter.
De la musique ce matin, je vous l'ai promis, juste avant le journal. Jane Birkin dit avoir trouvé son alter ego en la personne d'Étienne Dao.
Oui, Étienne Dao qui a en effet travaillé sur son nouvel album qui sort aujourd'hui, Oh pardon, tu dormais, 13 titres, dont un duo ensemble. Jane Birkin se félicite d'une collaboration très enrichissante.
D'être avec lui, en fait, était une telle gaieté. Il m'a poussée au débauche, il a voulu que je montre un côté aussi pas formidablement sympathique toujours, d'être un vrai caractère.
Pas d'accord pour les nuits de besoin.
Et puis quand il a ajouté ces mots à lui, parce qu'on a coécrit pas mal de chansons ensemble, il était tellement attentif à moi, on a eu tellement d'idées.
Elle se fabriquait des histoires.
Au pardon, tu dormais, de chanter ça avec Étienne, c'était tellement marrant de lui donner des morceaux de texte en disant des horreurs sur moi.
Au pardon, tu dormais.
Là, on va s'engueuler.
Et quelque part, ça m'a donné aussi une énergie que je n'avais plus.
Enlacer ses amants dans le parc, je les observais.
Jane Birkin, son nouvel album « Oh pardon, tu dormais » sort aujourd'hui.
C'est dur comme nom d'album.
Nous, on dormait pas du tout.
Vous voyez, chez le disquaire. Chez le disquaire. Un peu anciennement de Mathieu Bellière ce matin, mais c'est comme ça, dans les bacs, comme on disait. « Oh pardon, tu dormais, s'il vous plaît. » Pardonnez-moi. Jane Birkin, nouvel album. Merci Hélène Zélani. C'était le journal de 7h.
Europe 1, Mathieu Bellière.
Le monde de la culture à l'arrêt ? Non, on vient d'entendre Jane Birkin, mais ce n'est pas la seule. Julien Clerc dévoile son nouveau single ce matin sur Europe 1.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur.
Mon refuge, écrit par Clara Luciani, un album en février. Julien Clerc, invité du tête-à-tête à 7h40, l'invité du tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, vous allez entendre que malgré la crise, le marché de l'immobilier résiste, les prix continuent de grimper. L'éclairage éco, Nicolas Barré, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Bellière.
7h13 sur Europe 1, c'est l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Tiens, vous nous en parliez hier matin à l'entrée d'Airbnb en bourse. Airbnb dont l'action était valorisée à $68 au démarrage, plus 113% sur la journée. Le titre valait $144 à la clôture.
Oui, c'est quelque chose. Hein.
C'est réussi, on peut dire.
Comment on
peut dire ça. Bon, crise ou pas crise, la passion des Français pour l'immobilier ne faiblit pas. Et les prix continuent de grimper.
Oui, alors l'année 2019 avait été historique avec plus d'un million de transactions immobilières dans toute la France. Bon, on pouvait craindre que cette année, après des semaines de confinement, il y ait une chute des ventes, ne serait-ce que parce que les visites ont dû être suspendues en mars-avril, les agences étaient fermées. Eh bien non, les chiffres des notaires montrent un recul de seulement 5% sur un an à fin septembre. C'est quand même assez peu. Et depuis, l'activité des notaires n'a pas faibli, les offices sont restés ouverts, les déménagements ont été autorisés, les signatures d'actes de vente à distance se sont banalisées. Bref, le marché a continué à tourner. 2020 n'aura certes pas été une année d'euphorie, mais il n'y a pas eu d'effondrement du marché, loin s'en faut.
Et encore moins de baisse des prix.
Alors ça, c'est quand même le plus étonnant. Les prix, on parle de l'ancien, ont augmenté dans toutes les grandes villes françaises. La palme du dynamisme revient à l'ouest, plus 14%, rendez-vous compte, à Rennes, plus 13% à Nantes. La hausse du prix du mètre carré atteint aussi 10% à Lille, Lyon, Marseille et dans la capitale où un mètre carré coûte en moyenne 10 640 euros, soit plus du double de la deuxième ville la plus chère de France, qui est Lyon. Et bien même à Paris, les prix ont progressé de 7,6% sur un an. Alors on peut en tirer un enseignement. Tout ce qu'on a pu entendre sur l'exode urbain, le fait que le télétravail allait encourager les Français à s'installer à la campagne, et bien ça ne se vérifie absolument pas dans les chiffres. Les Français continuent à se ruer sur les centres-villes.
Alors on a aussi l'impression que le marché de l'immobilier est complètement déconnecté de l'état de l'économie.
Bah oui, parce que quand les prix augmentent de 6,5% par an, parce que ça c'est la moyenne pour toute la France, c'est-à-dire trois fois plus vite que le pouvoir d'achat, on se doute qu'à un moment, il va y avoir un ajustement. Mais pour le moment, on ne le voit absolument pas venir. Malgré la remontée du chômage, les acheteurs sont toujours là. Les banques d'ailleurs en témoignent, puisque le crédit immobilier a continué de croître cette année, porté par des taux d'intérêt qui restent extrêmement bas. C'est clair, le retournement du marché, tant attendu, tant espéré par les acheteurs, se fait attendre.
Merci Nicolas Barré. Il est 7h15 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Mais bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour.
Donald Trump a annoncé un nouveau coup diplomatique pour les Américains, la normalisation des relations entre Israël et le Maroc.
Oui, pour Hanouka, la fête des Lumières, Donald Trump a offert à ses amis juifs un feu d'artifice. Le Maroc renoue avec Israël. Les relations diplomatiques rompues il y a 20 ans. Après les Émirats, après le Soudan, autour du Maghreb, et pas n'importe quel pays, le royaume du commandeur des croyants qui préside le comité Al-Rots qui veille sur Jérusalem. Les invités dans la salle des fêtes de la Maison-Blanche ont applaudi et crié 4 ans de plus. Donald Trump fait tout pour que ses partisans le regrettent et sa fin de règne sera un bouquet final.
Alors ça fait un mois qu'il vit reclus, niant obstinément sa défaite.
Oui, ils disent qu'il a envie d'entendre, mais le plus important c'est qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Il gracie Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale. Il envoie au bourreau les condamnés à mort, comme cette nuit au Texas, et 4 autres exécutions sont planifiées d'ici l'investiture de Joe Biden. Il accélère le repli d'Afghanistan et de Somalie, le fait accompli encore avec la vente de F-35 et de drones aux Émirats Arabes Unis. Il sanctionne les dirigeants chinois pour la répression à Hong Kong, promulgue la loi antidopage qui va embarrasser le Kremlin, etc., etc. Au lieu de faire ses mal, Donald Trump fait le forcing.
Le Maroc obtient le soutien des Américains sur le Sahara occidental.
Alors les Marocains ont bien potassé l'art du deal, le best-seller de Trump. Tout s'achète à condition d'y mettre le prix et surtout d'attendre le bon moment. Ils ont négocié des mois en secret. En échange de la reprise du dialogue avec Israël, ils obtiennent le maximum, la reconnaissance de leur souveraineté sur le Sahara occidental qu'ils ont annexé au départ des colons espagnols. Les États-Unis se rallient à leur plan d'autonomie déclaré seule solution crédible, réaliste, juste et pérenne. Donald Trump enterre les indépendantistes du Polisario, tenus à bout de bras par l'Algérie, et aussi le référendum d'autodétermination réclamé par l'ONU. Trump, c'est une tempête de sable et qui va continuer de souffler pendant encore un mois.
Merci beaucoup Vincent Hervouette, le regard international. Et puis tiens, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué cette annonce.
I want to first thank President Trump
Je tiens tout d'abord à remercier le président Trump pour ses efforts extraordinaires pour étendre la paix, pour ramener la paix en Israël et au peuple du Moyen-Orient, dit Benjamin Netanyahou. Je tiens également à remercier le roi du Maroc, Mohamed VI, d'avoir pris cette décision historique de ramener la paix entre nous.
Oui, bon, il y a 700 000 juifs marocains qui vivent aujourd'hui en Israël. C'est le dialogue n'a jamais véritablement cessé, mais effectivement, c'est une date, la reprise de ces relations diplomatiques.
Merci Vincent Hervouet. Le regard international, il est 7h18 sur Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1 pour soutenir la minorité ouïghour persécutée. Antoine Griezmann rompt son contrat avec le chinois Huawei. Les footballeurs découvrent leur pouvoir cette semaine. L'édito sport de Virginie Fulpin, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1. L'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Antoine Griezmann a rompu son partenariat avec la marque chinoise Huawei, soupçonné de participer à la répression des Ouïghours. Pour vous, Virginie, c'est une nouvelle preuve que les sportifs n'hésitent plus à s'engager, mais ça peut facilement se retourner contre eux.
Bah on dit les bleus ou les casques bleus, on ne les reconnaît plus là, nos footballeurs. Ils sont passés dans une autre dimension cette semaine. Antoine Griezmann a donc annoncé hier qu'il rompait son partenariat avec Huawei. La marque chinoise de téléphonie est soupçonnée de surveiller la minorité musulmane ouïghour. Alors comment ne pas se féliciter de la décision du joueur? On accuse souvent les footballeurs de s'engager pour pas cher, hein, juste pour se donner une bonne image. Mais là, bah ça lui coûte de l'argent à Antoine Griezmann, plusieurs centaines de milliers d'euros. De faire passer les droits humains avant ces contrats fructueux. Qu'on ne l'accuse pas non plus de surfer sur la vague du moment pour faire parler de lui. Il ne vient pas de se découvrir une conscience politique, il ne s'est pas dit en regardant PSG Başakşehir qu'il devait trouver le moyen qu'on ne l'oublie pas, parce qu'il est au contraire de tous les combats. Il a fait la une du magazine Têtu pour lutter contre l'homophobie. Il a été un des rares...
Rien, non, c'est dans le milieu du sport, on l'a beaucoup dit d'ailleurs, mais ce n'est pas rien d'avoir fait cette une-là.
Il a aussi soutenu les footballeuses espagnoles qui demandaient les mêmes droits que leurs collègues masculins. Il a été l'un des rares en Espagne. Il était dans la vidéo de la Fédé pour rendre hommage à Samuel Paty. Il a eu mal à sa France après les violences policières contre le producteur de musique. Bref, en matière d'engagement, Antoine Griezmann n'a de leçons à recevoir de personne et là, il va encore plus loin, donc tant mieux.
Mais vous dites, Virginie, que ça peut aussi se retourner contre lui.
Mais en fait, les footballeurs sont en train de découvrir le pouvoir qu'ils ont en tant que citoyens et ils découvrent aussi l'envers du décor. Jusque-là, on ne les entendait quasiment jamais sur les sujets de société. Maintenant, ils sont descendus de leur tour d'ivoire et ils sont rentrés dans l'arène, scrutés par tout le monde. Donc forcément, ils vont prendre des coups. Ils en prennent déjà d'ailleurs. Antoine Griezmann a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux, notamment par des syndicats policiers. Maintenant, on va lui demander pourquoi il a choisi la cause ouïghour et pourquoi il ne se préoccupe pas des conditions de travail des ouvriers chez Puma, son équipementier personnel, ou chez Nike, l'équipementier du FC Barcelone et des Bleus. Et ces questions-là, elles sont légitimes. Ils s'engagent. Donc on attend aussi une explication de texte parce que c'est un personnage public et parce qu'il est un des premiers footballeurs à joindre le geste à la parole. On n'a pas encore l'habitude, donc Antoine Griezmann va essuyer les plâtres. Je suis persuadée qu'il en a conscience, il s'engage quand même, c'est encore plus convaincant.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins sur Europe 1. Il est 7h24 et on retrouve Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui une expression où il est question de séduire et ce de façon pas toujours très chic. Penchons-nous sur faire du gringue.
Alors faire du gringue, c'est draguer, c'est une expression qui est un peu datée, un peu familière aussi.
Oui, vous me connaissez bien. J'aime quand vous prenez des pincettes pour me dire que mon expression est ringarde et totalement grossière. Au XVIe siècle, le grignon désignait dans certaines régions de France le pain. Cela donnera d'ailleurs le quignon de pain. Grigner, c'est faire du pain et le premier à avoir utilisé ce champ lexical pour le transposer à l'univers de la séduction, c'est le chansonnier réaliste Aristide Bruant. En 1901, il invente et popularise l'expression « faire du gringue » dans son dictionnaire de l'argot où il écrit noir sur blanc cette formule. Il ajoute aussi « faire du plat », autre métaphore de séduction nourricière. Toujours à cette époque, il existait déjà la formule « faire des petits pains » envers quelqu'un, ce qui signifiait se faire bien voir à des fins un peu libidineuses, dévorer quelqu'un des yeux, mangeuse d'hommes, être à croquer. Elles sont nombreuses, les figures de style qui mélangent la drague et la nourriture.
Est-ce que chez nos voisins européens, on fait également du gringue?
Oui, chez nos amis flamands, on dit faire cuire des petits pains sucrés.
Oh, c'est mignon.
En Allemagne, on dit râper de la réglisse. Voilà une autre métaphore à la fois séductrice et culinaire. Quant au Portugal, on dit traîner l'aile, arracher à ça, comprennent qui pourra.
Je j'ai essayé en arrivant au Portugal en vacances. J'ai pas l'accent. 16h tout à l'heure, c'est historiquement vôtre avec Mathieu Noël.
Oui, comme dit la chanson, on réunit trois filles au masculin. Trois dames qui répondent au prénom de Jean, Georges et Chris. L'une a fait le tour du monde, l'autre a écrit une œuvre remarquable et la dernière chante et danse, vous verrez. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël tout à l'heure dès 16h sur Europe 1.
À tout à l'heure 16h.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Laurent Cabrol pour la météo et Sophie Echen, un nouveau journal sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1. 7h29 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, si vous voulez faire du gringue aujourd'hui, vous offrez un petit coin de parapluie, c'est mignon aussi, ça vous permet d'aller au bout, comme dirait l'autre. Le Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, l'Auvergne, la vallée du Rhône, le Midi-Pyrénées, le Languedoc-le-Roussillon et la Provence seront des régions arrosées, bien arrosées, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et tout. À Paris, il pleuvra encore une bonne partie de la journée, après ce seront des averses en deuxième partie de journée. D'ailleurs, les averses seront là, très présentes sur toutes les régions qui bordent la Manche, qui bordent l'Atlantique, sur le Poitou-Charente, sur la Vallée de la Loire. Ce sont des régions qui, dans l'ensemble, connaîtront les averses avec du vent et du vent assez fort. Alors, la bonne nouvelle, et je terminerai avec cela, ce sont les températures qui sont en hausse. Allez, nous gagnons 2 degrés, 7 à 15 degrés aujourd'hui de moyenne nationale, entre 9 et 14.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
La population qui va défier ce couvre-feu sera une population qui voudra en découdre avec les forces de l'ordre. Je vais être honnête avec vous, ça va être une grosse difficulté.
La crainte des policiers de Strasbourg après l'annonce d'un couvre-feu la nuit du 31 décembre. Le gouvernement a promis des contrôles renforcés, mais dans les quartiers difficiles, on s'attend à une soirée agitée. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, est-il responsable de la pénurie de masques au printemps dernier ? Il est mis en cause, en tout cas, par un rapport du Sénat. Dans ce journal, vous entendrez le soulagement de la mère d'une victime de l'incendie de la rue Mira à Paris. L'accusé a été condamné à 20 ans de prison. Et puis vous souhaitez offrir un bon livre pour Noël, ne bougez pas. Nicolas Caro, le monsieur littérature d'Europe 1, vous donne quelques suggestions à la fin de ce journal.
Juste après ce journal, il vient nous présenter le premier extrait de son nouvel album qui sortira en février. Le chanteur Julien Clerc, invité du tête-à-tête Europe Matin. Après les masques au printemps, les tests l'été, le vaccin, c'est le troisième crash test du gouvernement. L'édito politique de Nicolas Bétou. Juste avant Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, le vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À partir de mardi, nous pourrons à nouveau nous déplacer dans toute la France sans attestation et Noël pourra bien être célébré en famille. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles car si le gouvernement a choisi de sauver le réveillon du 24 décembre, celui du 31 en revanche, sera soumis à un couvre-feu de 20h à 6h du matin et le ministre de l'Intérieur ne plaisante pas, 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour empêcher toute fête sauvage ou rassemblement intempestif.
Alors ce matin, on va prendre la température du côté de Strasbourg. Avec vous Arthur Mbaché, bonjour.
Bonjour.
Chaque année, pour le 31 décembre, les quartiers sensibles de la ville sont émaillés de violences urbaines. Alors une question toute simple, Arthur, comment faire respecter ce couvre-feu ?
C'est vrai que si vous pensez, ne serait-ce que l'année dernière, prenez un de ces gamins qui lançait des mortiers vers les pompiers ou les CRS, dites-lui, rentre à la maison, c'est couvre-feu Covid. Les jeunes du quartier de la Méno que j'ai rencontrés hier soir sont sceptiques.
Les gens ici, ils sont chauds, hein. ça y est, nouvel an, tout ça, ça se voit, monsieur. Les gens, ils sont en feu, nouvel an, qui va empêcher de... Après ça, moi je sais que je serai chez moi, je respecterai le couvre-feu. Mais après, je sais pas, ça va aux autres de voir. Je pense, monsieur, que ça va être chaud, mais il faut déployer beaucoup de forces de l'ordre. Voilà, monsieur.
80% des effectifs strasbourgeois seront déployés le soir du 31, nous dit Sylvain André du syndicat Alternative Police CFDT.
Ça fait plusieurs années, dont principalement le nouvel an dernier, ça a été un pugilat complet avec plus de 200 voitures brûlées, des pompiers attaqués, caillassés, des cocktails Molotov de jetés sur les effectifs de police. Et on craint effectivement encore des événements cette année, en plus avec ce couvre-feu supplémentaire. La population qui va défier ce couvre-feu sera une population qui voudra en découdre avec les forces de l'ordre. Je vais être honnête avec vous, ça va être une grosse difficulté, quoi.
Cette année, pour la première fois, tous les feux d'artifice, même les plus petits pétards, sont strictement interdits en Alsace. C'est valable jusqu'au 4 janvier.
Arthur Mbaché à Strasbourg pour Europe 1. Et puis cet énième coup de massue pour le monde de la culture, les cinémas, théâtres, musées qui se réjouissaient de pouvoir enfin rouvrir mardi devront finalement patienter 3 semaines de plus.
Jérôme Salomon, le numéro 2 du ministère de la Santé, épinglé par la commission d'enquête du Sénat qui pointe sa responsabilité dans la pénurie de masques en France. France au début de l'épidémie.
Une pénurie qui serait liée à la décision du directeur général de la Santé de ne pas renouveler les stocks en 2018. C'est ce qui ressort d'un échange de mails qu'a consulté la commission d'enquête. Victor Dolande.
Dans un rapport commandé par Santé publique France en 2018, les experts scientifiques font plusieurs recommandations en cas de pandémie grippale sur les médicaments à prévoir, le matériel médical et les masques. 1 milliard serait nécessaire selon eux. Sauf qu'à l'époque, le ministère de la Santé cherche à faire des économies sur ces stocks. Jérôme Salomon n'en commande donc que 50 millions et d'après la commission d'enquête du Sénat, qui a eu accès à un échange de mails, Jérôme Salomon aurait cherché à faire modifier les préconisations du rapport. Y a-t-il eu pression sur les experts ? Selon l'auteur du rapport, le professeur Jean-Paul Stahl, ils n'ont pas modifié leurs recommandations.
Et nous, les experts, n'ont jamais eu de contact direct avec Jérôme Salomon sur ce sujet. Moi, la seule chose que je constate, c'est que le rapport tel qu'il a été publié est exactement celui qu'on a signé. Il n'a pas été modifié.
Aucune pression directe donc, selon lui, mais cet échange de mails et ce rapport confirment bel et bien que Jérôme Salomon était au courant des stocks de masques nécessaires en cas d'épidémie.
Et puis le Jean-Paul Stahl, le professeur d'infectiologie au CHU de Grenoble que vous venez d'entendre, sera l'invité de Patrick Cohen aujourd'hui à la mi-journée sur Europe 1.
Et puis du nouveau dans la course au vaccin anti-Covid, celui de Sanofi et du britannique GSK ne sera finalement prêt qu'en fin d'année prochaine. Les premiers essais cliniques ont apporté des résultats moins bons que prévus.
7h34 sur Europe 1. 20 ans de réclusion criminelle pour le pyromane du 4 rue Mira dans le nord de Paris. 8 personnes avaient péri dans cet incendie volontaire en 2015.
Et parmi les victimes, un homme qui s'était défenestré pour échapper aux flammes. Sa mère a assistée au procès. Elle en est sortie apaisée après l'annonce du verdict.
Depuis plus de 5 ans, on était dans une tourmente. Aujourd'hui, là, je ne veux pas dire que la douleur est partie, mais je veux dire que j'ai comme un sentiment là, d'apaisement. Quoi. J'ai un peu l'impression de pouvoir mieux respirer. Voilà. Et les angoisses ont sûrement s'en allé, j'espère. De m'importer la peine, moi ma peur c'était qu'il recommence. Et ma peur, c'était que d'autres familles, éventuellement, plus tard, un jour ou pas, puissent revivre ce que tout on a vécu. C'était trop dur, quoi. Faut pas que les gens vivent ça, quoi.
Un témoignage recueilli par Justin Morin. Disney a annoncé cette nuit un raz-de-marée de nouvelles productions, des films, des séries, des remakes de ces différents univers, notamment un nouveau Star Wars en 2023. C'est le dossier à retrouver dans le journal de 8h.
Plus que 2 semaines avant Noël, si vous êtes en train de vous creuser la tête pour trouver une idée cadeau, c'est quand même très probable. Ce matin sur Europe 1, on va vous donner un petit coup de pouce.
Mais pour les amateurs de lecture et de beaux livres, chaque année, les éditeurs proposent des éditions luxe. Nicolas Caro en a sélectionné quelques-unes rien que pour vous.
D'abord, un chef-d'œuvre, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, l'histoire d'Edmond Dantès, vous savez, accusé à tort d'être un espion de Bonaparte, enfermé sans procès au château d'If. Quand il sort 14 ans plus tard, il devient le Comte de Monte Cristo, avide de vengeance. Un roman magnifique, célébrissime, mais réédité chez Omnibus en grand format avec les illustrations du 19e siècle. Tout ça dans un joli coffret cartonné, son prix 39 euros. Sinon, pour les adeptes de science et d'histoire, les éditions Albin Michel publient l'un de leurs plus grands best-sellers. Sapiens de Yuval Noah Harari, rien de moins que l'épopée de la naissance de l'humanité, mais cette fois en version bande dessinée en 250 pages, 23 euros. Et puis, cadeau ultime, un manuscrit, celui de La Peste d'Albert Camus. Les éditions des Saint-Pères éditent le fac-similé, la copie conforme du manuscrit, exemplaire limité, numéroté, c'est plus cher évidemment, 160 euros.
Et voilà pour un premier aperçu, une sélection plus complète de 23 livres est à retrouver sur Europe1.fr.
Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Noël sauvé, mais pas forcément le nouvel an. Pas de réouverture des salles de spectacle, Jean Castex a donné le ton des fêtes de fin d'année sous Covid. L'invité politique d'Europe Matin, le vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Mais tout de suite, alors que le monde de la culture est à l'arrêt, je vous l'ai promis, de la musique aujourd'hui.
Mais rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien.
Julien Clerc sur Europe 1, un album arrive en février, un nouveau single dévoilé ce matin sur Europe 1, on va l'écouter avec lui. Julien Clerc, invité du tête-à-tête dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
7h40 sur Europe 1. Non, le monde de la culture n'est pas complètement à l'arrêt. Les temps sont durs pour le spectacle vivant, mais les artistes continuent à travailler. Un nouvel album en février pour Julien Clerc et un single qu'il dévoile ce matin sur Europe 1. Mon invité, le chanteur Julien Clerc.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Julien Clerc.
Bonjour.
À l'heure des plateformes, des Spotify, des mixtapes et playlists qui sont publiés par surprise dans la nuit, en quoi est-ce que l'arrivée d'un nouvel album, la sortie d'un disque, c'est encore un événement ?
J'ai envie de vous dire que c'est encore un événement, encore plus que, peut-être pas plus que le premier, parce que le premier, comme toutes les premières fois, c'est quelque chose qui restera dans mon esprit toute ma vie. Mais nous faisons un métier où durer est difficile. Quand on a eu la chance, comme c'est mon cas, d'avoir un certain succès pendant un certain nombre d'années, rester un artiste vivant est la chose la plus importante qui soit. C'est-à-dire continuer de créer, continuer d'inventer et essayer de surprendre ses contemporains.
Alors hier soir, on a appris la prolongation de la fermeture des salles de spectacle. C'est dur, extrêmement dur pour tout le monde de la culture en ce moment, mais pour vous, Julien Clerc, personnellement, c'est pas pour tout de suite, la tournée dans quelques mois. La scène, ça doit vous manquer quand même.
Alors la scène, ça sera dans un an, pas avant, mais évidemment que j'y pense déjà.
Et en attendant, on a aujourd'hui donc ce nouveau single que vous révélez sur Europe 1, ça s'appelle Mon Refuge.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver dans le port de Honfleur, et tu seras mon refuge où que nous allions.
C'est un reggae, Julien Clerc ?
Oui, enfin, c'est... oui. Moi, je ne fais jamais ouvertement des cha-cha ou des reggae ou des begin. On va dire que c'est une chanson avec un parfum un peu, oui, comme ça.
Il y a du soleil.
Un peu chaloupé avec du soleil, oui.
C'est un appel à l'espace, alors qu'on est... confiné, on a besoin d'air en ce moment, Julien Clerc.
Écoutez, on n'y a pas pensé en le faisant avec Clara Luciani, puisque c'est elle qui a écrit le texte, puisque cette musique-là a été composée avant le premier confinement. Dans notre métier aussi, il faut sentir l'air du temps. Alors peut-être que quand elle a écrit ça, elle a eu une prémonition, peut-être que ça pourrait faire du bien aux gens, sans doute n'imaginant pas cet affreux contexte, mais enfin, peut-être ça peut être sympa d'entendre ça dans les temps que nous vivons en ce moment.
Clara Luciani, on la connaît bien sur Europe 1, une révélation, une victoire de la musique aussi, cette nouvelle scène française. Clara Luciani, en l'occurrence, vous l'avez rencontrée comment, tiens, Julien Clerc ?
D'abord, je l'avais invitée dans une émission pour faire un duo avec elle, qu'elle veuille bien chanter avec moi. J'ai senti tout de suite l'auteur qu'elle était. Quand j'étais parti dans la composition de cet album, je lui ai demandé si elle voulait m'écrire des textes. Vous savez, mais moi je suis comme ça, je compose, on va dire, la majorité de mes chansons sur des textes. Et puis après je me mets à mon piano et j'essaie de mettre les textes que j'ai choisis en musique. J'ai toujours fait ça, pendant le confinement, ça n'a pas échappé à la règle. Sauf que pendant le confinement, pour ne pas casser les oreilles de tout le monde, parce que là on pouvait pas sortir, j'avais un petit clavier dans ma chambre, en fait, avec mon casque.
Vous vous êtes confiné dans le confinement, finalement.
Je me suis confiné dans le confinement pour pas rendre tout le monde fou avec mon... Bon, parce que vous savez, quand vous composez, c'est pas très agréable, finalement, que vous tournez en rond autour du même thème pendant des heures, et ça peut être fatigant pour les autres.
Vous êtes quelqu'un de casanier, Julien Clerc ?
Ben, moi qui ai beaucoup chanté le voyage, vous avez raison, je suis quelqu'un de plutôt casanier. C'est-à-dire que les grands voyages, comme ceux dont il est question dans la chanson d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai essayé de voir les endroits dont elle parlait dans la chanson, voir si j'y étais allé. Alors il y en a certains où je suis allé, mais on peut dire que c'est plutôt à chaque fois pour mon métier. Pas Honfleur, bien sûr, là Honfleur j'y suis allé souvent, mais sinon le Japon, il y a plus des pays où je suis jamais allé, comme les pharaons, là je suis jamais allé. Je suis plus un voyageur dans ma tête qu'un voyageur physique. Et partir loin ne m'a jamais emballé plus que ça. Et je l'ai fait toute ma vie, surtout pour mon métier.
Vous chantez « Emmène-moi », ça revient régulièrement dans la chanson « Emmène-moi ». Et j'ai découvert en préparant l'interview que vous voyez votre épouse.
Oui.
Ça surprend ?
Ouais, ça s'est fait de façon très naturelle. C'est une chose qui ne paraît pas naturelle aux autres.
En revanche, vous disiez que vous ne tutoyez pas facilement.
Non, non, les nouvelles personnes, je ne tutoie pas facilement. Après, je passe ou non au tutoiement, et puis ça dépend des gens aussi en face. Vous avez des gens qui préfèrent être tutoyés. Moi, souvent, par exemple, les gens avec qui je travaille, je les vouvoie.
Une autre petite indiscrétion à votre sujet, Julien Clerc, je lisais, il fait les mots croisés du journal Le Monde tous les jours. Oui. Je me suis dit simplement, au-delà des mots croisés, ça veut dire que vous achetez la presse tous les jours.
Bah écoutez, je suis encore d'une génération qui achète la presse de papier. Ceux du Monde sont bien. Vous savez, c'est amusant les mots croisés, c'est parce que vous êtes... en fait, vous connaissez l'esprit de celui qui les fait. Et donc, c'est que ça devient comme une espèce de, sinon d'amitié, du moins de, on fréquente à distance quelqu'un et on connaît son esprit. On sait que quand il dit certaines choses, ça veut dire ça. Vous vous entendez bien, finalement, avec quelqu'un à distance que vous connaîtrez sans doute jamais, alors que vous entendez moins bien avec d'autres qui font des mots croisés qui peuvent être aussi difficiles, ou même plus difficiles que celui du Monde, et vous rentrez pas dans son schéma mental. Alors que lui, ça fait plusieurs années que je le fais, il s'appelle Philippe Dupuis, je crois.
On lui rend hommage ce matin.
Ben oui, on lui rend hommage, parce que, bon, mais enfin, il y avait un jour quelqu'un, un ami à moi, journaliste, qui était Bertrand Dical, pour ne pas le nommer, qui m'avait dit, tu serais très déçu de savoir aujourd'hui comment se font les mots croisés, parce qu'ils font ça de façon très... enfin, je veux dire, ils servent des machines eux aussi, bon, des ordinateurs, pour faire... Alors ça m'avait beaucoup déçu. Mais enfin bon, je continue de penser que j'ai eu une entente spéciale avec, avec Philippe Dupuis.
L'auteur des mots croisés du Monde. Emmène-moi, c'est l'injonction qui revient dans ce nouveau single, Mon Refuge. Pour terminer, Julien Clerc, là, maintenant, vous pourriez vous téléporter ce matin tout de suite. Où est-ce qu'on vous emmène ?
Où est-ce qu'on m'emmène ? Non, mais j'ai une phrase que j'aime beaucoup dans la chanson qui dit « Emmène-moi écouter les sirènes ». Qu'est-ce qu'elle dit qui charmait les pêcheurs ?
Clara Luciani.
Jolie phrase d'auteur. Je veux bien aller voir les sirènes envoûter les pêcheurs.
Merci Julien Clerc.
Merci beaucoup.
25e album studio Terrien, ça sort le 12 février. En attendant ce matin, le nouveau single, le premier single de cet album, Mon Refuge. À bientôt Julien Clerc.
À bientôt, merci.
Emmène-moi écouter les sirènes, envoûter les pêcheurs. Et tu seras mon refuge où que nous allions.
Terrien, nouvel album de Julien Clerc le 12 février prochain. Et ce single écrit par Clara Luciani, Mon Refuge, que Julien Clerc dévoile, merci encore, hein, dévoile ce matin sur Europe 1, 7h48. L'édito politique de Nicolas Bétou dans quelques secondes. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1. L'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Après les masques l'hiver dernier, après les tests cet été, voici le troisième crash test pour le gouvernement dans sa lutte contre le Covid, les vaccins.
Oui, et il y a de quoi être inquiet. Les deux premiers crash tests ont été des échecs. Sur les masques, on se souvient de la pénurie pendant quasiment tout le premier confinement. Et on a même compris depuis que beaucoup d'hôpitaux, d'EHPAD, de médecins libéraux avaient été fournis en masques par des entreprises, en particulier par celles qui avaient des filiales en Chine, et donc des filières d'approvisionnement. La puissance publique, elle, a été dépassée et plantée par la lourdeur de l'administration.
Et puis, il y a l'affaire des stocks de masques détruits.
Voilà ce que pointe à nouveau avec sévérité un rapport du Sénat qui met directement en cause Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, soupçonné d'avoir arrangé la vérité. En tout cas, le deuxième crash test raté, c'est celui des tests, qui était pourtant au cœur de la stratégie du gouvernement. Hein, vous vous souvenez, tester, tracer, isoler. En fait, au sommet de la deuxième vague, il fallait 8 à 10 jours dans les grandes agglomérations pour faire un test et en avoir le résultat. Efficacité nulle.
Et donc, troisième test, celui des vaccins. Vous dites qu'il y a de quoi être inquiet, Nicolas ?
Alors, sur les vaccins, chacun a son avis. Moi, j'ai plutôt confiance dans la science. Sur la logistique qui est en train d'être mise en place pour vacciner progressivement tous les Français, la France, pays suradministré, sort à faire. Non, ce qui est préoccupant, c'est de voir que le doute s'installe, ou plutôt qu'il progresse dans la population. La faute à toutes ces déclarations de médecins qui partent dans tous les sens, pointant le manque d'informations sur les vaccins, sur leurs effets secondaires, sur l'opportunité de se faire vacciner vite ou d'attendre. Alors, bien sûr, le gouvernement n'est pas responsable de cet effet brouillon, mais il y a une carte majeure à jouer, c'est l'exemplarité.
C'est-à-dire, vous voulez quoi? Que les ministres se fassent vacciner devant les caméras?
Par exemple, oui, c'est un peu l'effet Queen Elizabeth, hein, la reine d'Angleterre, qui a annoncé qu'elle et son mari se feraient vacciner. Alors bien sûr, le risque, c'est que nos dirigeants soient accusés de profiter de passe-droit. Et c'est vrai que la reine Elizabeth a 94 ans, elle fait partie des populations prioritaires.
A priori, oui.
Mais nous avons en France quelques hommes et femmes politiques âgés qui ont largement dépassé les 70 ans, y compris au gouvernement, ils pourraient très bien jouer de l'exemplarité.
Vous ne donnez pas de nom, Nicolas Bétou. Et les autres?
Ils se sont reconnus.
Et les autres alors, les plus jeunes?
Et bien, c'est là qu'est le risque du crash test. Quand Emmanuel Macron déclare qu'on ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur ce virus, il alimente la méfiance. Lorsqu'il précise ne pas vouloir dire aux gens « vaccinez-vous, vaccinez-vous » à toute force, il alimente la suspicion. Alors, dans un pays qui reste enfermé, qui ne peut même pas fêter le nouvel an, n'avoir aucune perspective médicale, le vaccin, aucune perspective sociale, le retour à la liberté, ça donne sûrement un cocktail détonnant.
Merci Nicolas Bétou, votre édito tous les matins sur Europe 1. Et d'un mot, on en parlera dans le journal de 8h ce matin, le français Sanofi a annoncé que son vaccin ne serait pas prêt avant la fin 2021. 7h54. Tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Jordan Bardella, député européen du Rassemblement National. Et c'est Marine Le Pen qui voulait lui dire un petit mot.
Oui, bonjour monsieur Bétou, bonjour monsieur Cabrol, et bonjour à toi joli métis. Tu fais quoi pour le réveillon? Justement, j'étais en train de faire mon plan de table, alors je voulais juste demander à Jordan s'il confirmait, parce qu'on n'a pas droit à plus de 6, donc là qui aura, et donc il y aurait Jordanou, voilà, Robert Ménard à ma gauche, Éric Zemmour à ma droite. Marinette, Marinette, mon petit poussin, regarde, j'ai fait une jolie bûche pour la Neuillelle avec un maréchal Pétain en pâte d'amande comme dans la grande vadrouille.
Oui, non, non, mais désolé, mais on est au complet là.
Menteuse, menteuse, Ménard, 1, Zemmour, 2, Bardella et toi, ça fait 4, pas 6.
Oui, va pas pouner, mais tu oublies Mathieu Béliard et Nicolas Bétou, ça fait 6. Ah, on va passer un beau réveillon tous ensemble, je suis sûr.
Nicolas Canteloup qu'on retrouve à 8h45 pour la revue de presque, bien sûr, sur Europe 1. Il est 7h55.
Je suis ton père.
Un retour dans le journal de 8h. Dark Vador, les Jedi, les sabres laser, un nouveau Star Wars, des séries en pagaille. Et ce n'est même pas tout. Annonce massive chez Disney. C'est à la une à 8h. À tout de suite. Il est 7h58 et Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Et c'est une météo alterne, vous l'avez compris, chers amis, les fronts pluvieux, puis derrière les averses, et puis derrière une petite note de soleil. On va prendre la note sol, elle est jolie. Et vous avez ce type de temps avec une douceur qui semble maintenant s'installer. Ce type de temps devrait durer presque jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, c'est un engagement que je prends devant vous, mais un engagement avec quelques risques tout de même, vous l'avez compris. Aujourd'hui, c'est de la pluie pour toutes les régions de l'Est, pour le Nord-Est aussi, le Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine-Alsace. Vous avez de la pluie aussi sur le Midi-Pyrénées, vous en aurez tout au long de la journée. Et la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes pourront même quelques chutes de neige ce matin. Ils les ont d'ailleurs. En région parisienne, c'est de la pluie, mais qui va se transformer en averse. Voilà, le reste, eh bien, ce sont des averses, effectivement, sur toutes les régions où il a plu hier. Un régime d'ondées avec des vents assez forts, autour de 60 à 70 km/h, et des températures de 9 à 15 degrés.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Ce sera la guerre des étoiles à tous les étages, des films, des séries, des suites, des retours en arrière. Disney, propriétaire de cette licence, mais aussi de Marvel, annonce cette nuit à la surprise générale une myriade de projets, de quoi irriguer les écrans pour les années qui viennent, et ce, dans un contexte ô combien morose pour les salles de cinéma qui en France restent fermées 3 semaines de plus. Le monde de la culture grogne, nous vous raconterons aussi les coulisses des décisions de l'exécutif. Et puis le Goemio, édition 2021, peu lui importe la fermeture des restaurants pendant des mois cette année, le prestigieux guide culinaire a récompensé son cuisinier 2021, nous serons avec lui au fourneau.
Les annonces de Jean Castex hier soir, bien sûr, mais aussi les débats autour de la loi contre les séparatismes. Juste après ce journal, le vice-président du Rassemblement national, Jordan Bardella, au micro de Sonia Mabrouk. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Même en matière de conférences de presse, le géant du divertissement Disney est capable de surprendre et de captiver. On l'a vu cette nuit avec ce scénario que personne n'attendait.
Bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce devait être une réunion dédiée aux investisseurs. Quoi de plus ennuyeux a priori ?
Oui, sauf qu'ils ont eu droit à ça.
You'd better be ready.
Une bande-annonce de luxe illustrant une partie des films et des séries en cours de production, un feu d'artifice de nouveautés autour de deux univers notamment, celui de Star Wars et celui de Marvel. Alors Disney n'abandonne pas le cinéma pour l'instant, avec des sorties prévues en salle comme Rogue Squadron attendu fin 2023, réalisée par Patty Jenkins. Elle sera la première femme à la tête d'un long métrage de la franchise Star Wars. Mais sont attendus également un nouvel épisode des 4 Fantastiques, de Thor, le retour de Whoopi Goldberg dans Sister Act 3 ou encore un film d'animation consacré au personnage emblématique de Toy Story, Buzz l'éclair. Mais les annonces, Mathieu, de cette nuit montrent surtout la volonté de monter en puissance sur la plateforme Disney+. Depuis votre canapé, vous allez donc pouvoir dévorer dans les années à venir 10 séries Star Wars, 10 séries Marvel, 15 séries Disney, mais aussi la déclinaison d'Alien de Ridley Scott. Puis je sais que vous l'attendiez, Mathieu. Le clan Kardashian vient aussi de signer un contrat avec la firme américaine.
Ah, incroyable.
Voilà, l'objectif de Disney pour la plateforme est clair. Une nouveauté par semaine.
Eva Rock, vous restez avec nous. On va se rapprocher d'Hollywood. Nous rejoignons le correspondant d'Europe 1 à Los Angeles, Benoît Clerc.
Bonjour Benoît.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors avec tout ce qu'on vient d'entendre, on est frappé de la vitalité apparente de Disney dans la période actuelle.
Oui, ces annonces, Mathieu, préfigurent plusieurs changements de stratégie du studio. D'abord, l'entertainment qui se consommera demain encore plus qu'aujourd'hui à la maison, Eva vient de le dire. Et cette mise en ligne de films et de séries ne plaît pas du tout aux exploitants de salles de cinéma qui voient ici une concurrence redoutable et peut-être mortelle pour eux à moyen ou à long terme. Ensuite, les parcs d'attractions, ils sont eux durablement touchés par la pandémie. Si Disney World vient de redémarrer partiellement en Floride, Disneyland à l'ouest reste lui fermé. Et depuis septembre dernier, Disney a procédé à quelques 32 000 licenciements. On comprend donc que Bob Chapek, le PDG du groupe, va devoir encore retrousser ses manches pour faire oublier à ses actionnaires que dans ces changements radicaux, eh bien, Oncle Picsou n'est pas passé très loin de la banqueroute.
Oui, la réalité est plus contrastée effectivement au niveau social. Benoît Clerc, merci. Tout ça illustre une fois de plus hein, ce bouleversement qu'on vous raconte sur Europe 1 que vit le monde du cinéma et l'audiovisuel en général.
Oui, Eva Rock, oui. Ce n'est pas un changement éphémère, hein, le temps de crise du Covid. On parle là d'une évolution bien plus durable.
Oui, bien sûr, c'est à la fois un bouleversement dans notre façon de consommer la culture et c'est une révolution de l'industrie culturelle. Les investissements pour créer de nouveaux contenus se comptent en milliards et du côté des abonnés, écoutez bien, alors que Disney Plus en espérait 90 millions d'ici fin 2024, la firme aujourd'hui cible désormais le chiffre de 230 millions d'abonnés.
Alors j'avais vu hein, les infos Disney tout au long de la nuit, j'avais raté l'épisode 3 de Sister Act, le retour de Whoopi Goldberg, c'est quand même absolument incroyable. Et alors je sais qu'Eva Rock va avoir du travail pour les mois à venir dans le podcast Sériland que vous présentez, 10 séries Star Wars, rien que ça. Merci Eva Rock.
Merci.
Et merci Benoît Clerc à Los Angeles, merci à tous les deux. En France, hier soir, ce sont les cinémas, oui, qui ont pris un coup sur la tête.
Oui, 3 semaines de plus au moins sans rouvrir, idem pour les théâtres, les musées. Et tout le secteur de la culture vit en fait un confinement prolongé par rapport au reste de l'activité du pays. Situation vécue comme une injustice et même un danger pour le comédien Charles Berling, qui est aussi directeur des théâtres Liberté et Château-Vallon à Toulon.
La première chose qu'on annonce, c'est la fermeture des théâtres, des cinémas, alors qu'on est fermé et que donc si ça augmente, c'est forcément pas nous. Et tout le reste continue. Les grands centres commerciaux, tout ça, allons-y sur le consumérisme, continuons à détruire la culture française, continuons à détruire ce qu'elle produit de meilleur. C'est de la haine de l'artiste. Ça fait 10 mois que les artistes crèvent. Allez-y, pillez nos démocraties, foutez-les en l'air.
Charles Berling est très fort.
La haine de l'artiste.
Oui, c'est extrêmement violent. Fort ce que dit Charles Berling au micro d'Angèle Châtelier. Contraste surprenant en écoutant la réaction dissonante hein, dans le monde de la culture de Mathieu Kassovitz à ces mêmes annonces.
L'acteur et réalisateur qui déclare sur BFM TV qu'avec la pandémie, les morts et les réanimations, rouvrir les cinémas est le dernier des problèmes qu'on devrait avoir.
Je suis très content d'être en France et je suis très content de ce que fait le gouvernement avec tous les trucs, mais je me sens protégé parce que moi, j'ai besoin de protéger ma famille, j'ai besoin de protéger mon père qui a 82 ans et je trouve ça intéressant que des politiciens fassent l'inverse de ce que veut la population, l'ensemble de la population, on veut tous sortir. mais qui sont obligés de le faire parce qu'ils nous protègent et c'est leur travail.
Mathieu Kassovitz qui salue, c'est étonnant de sa part, le travail des politiques. J'ajoute, à 6h40 ce matin sur Europe 1, la vice-présidente de ce qui est la plus grande salle de spectacle d'Europe, la Défense Arena, tout près de Paris, Bathilde Lorenzetti, qui, avec les annonces d'hier soir, pointe un risque vraisemblable d'annulation des concerts prévus au printemps. Il y avait notamment Céline Dion à l'affiche.
Alors, on a besoin de comprendre tout simplement comment, à 5 jours à peine de la date prévue, ces décisions de l'exécutif ont été prises.
Oui, car il y a le secteur culturel, on vient de le voir. Il y a aussi le couvre-feu dès 20h, sauf le 24 décembre, mais ce couvre-feu qui s'appliquera bien, en revanche, le soir du réveillon du Nouvel An.
Bonjour Jean-Rémy Baudot.
Bonjour à tous.
Vous avez des informations sur ce qui a conduit en coulisses à ces choix ?
Oui, et une partie des décisions annoncées hier ont été arbitrées mercredi soir. De longs échanges entre Emmanuel Macron et Jean Castex. C'est là qu'a notamment été tranché le sort des établissements accueillant du public, les cinémas, les théâtres, les musées. La ligne sera ferme. Roselyne Bachelot a défendu la culture, mais ça n'a pas suffi, décrypte un proche du président. Bien qu'Emmanuel Macron avait initialement esquissé une possible réouverture la semaine prochaine, le chef de l'État n'a pas eu d'hésitation, selon un de ses amis. Une décision particulièrement douloureuse, affirme Jean Castex, mais en privé, le Premier ministre assume « nous avions le devoir de nous adapter ». Jean Castex, qui a obtenu un arbitrage important sur le 31 décembre, il poussait depuis plusieurs jours pour restreindre les possibilités de fête pour le réveillon. Résultat, pas d'assouplissement pour le couvre-feu à la Saint-Sylvestre. L'exécutif plaide la cohérence face à l'épidémie et espère l'adhésion des Français. Une exigence sanitaire autant que politique pour Emmanuel Macron.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Et on va noter une sorte de mea culpa du gouvernement sur l'isolement des malades. On vous en parlait dans un dossier d'Europe 1 cette semaine.
Oui, trop compliqué politiquement semble-t-il, mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce vouloir tenter tout de même un dispositif de suivi.
L'objectif, c'est que chaque personne diagnostiquée positive au virus se voit proposer une visite à son domicile par une équipe comprenant un soignant, un infirmier ou une infirmière, libéral la plupart du temps, qui pourra par exemple réaliser des tests antigéniques auprès de l'entourage qui partage le même foyer que la personne malade, de manière à pouvoir isoler aussi plus rapidement et plus efficacement.
Olivier Véran hier lors de la conférence de presse, et puis ce revers qu'on a appris ce matin dans la course au vaccin, le français Sanofi annonce que son projet de vaccin ne sera pas prêt avant fin 2021. Précisons que ça ne remet pas en cause la campagne prévue en France pour démarrer dès janvier avec le vaccin cette fois de Pfizer. Plus globalement, la France et l'Union européenne ont passé des contrats avec 6 laboratoires.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Une année particulière pour les restaurants, mais un chef sacré cuisinier de l'année par le Goemilio. Nous sommes dans sa cuisine. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Ils n'ont jamais masqué leurs désaccords politiques, c'était souvent par micro et caméras interposées dans les médias. Hier, entre Éric Dupond-Moretti et Marine Le Pen, c'est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale que les comptes ont été réglés.
Madame Marine Le Pen, quel privilège pour moi de vous entendre enfin. Il y a les mensonges du matin et il y a ceux de cet après-midi. Vous les enfilez comme les perles. Sur les chiffres, vous mentez. Les chiffres de la récidive, vous pouvez les égrener, et vos électeurs sont sans doute attentifs et gourmands de cela, mais vous mentez, madame. Si vous aviez été présente ce matin, déjà ils ont été évoqués à de nombreuses reprises. Votre programme, grosso modo, c'est la prison de 7 à 77 ans.
Éric Dupond-Moretti, sévère à l'égard de Marine Le Pen, le ministre de la Justice hier à l'Assemblée nationale.
Et vous l'avez noté, Jordan Bardella, le vice-président du Rassemblement national, sera l'invité de Sonia Mabrouk dans quelques minutes.
Avec la fermeture des restaurants au printemps et depuis fin octobre à nouveau, on avait presque oublié l'existence des guides culinaires. Ils ont pourtant continué leur travail à l'image du Goemilio, qui vient de sacrer le chef Christophe Hay, cuisinier de l'année.
Et ce matin, nous vous emmenons à Montlivaud, c'est dans le Loir-et-Cher, dans la cuisine de ce chef. Reportage Europe 1 de Pierre Herbulot.
La salle est complètement vide. Le chiffre d'affaires a diminué de 75%. Presque tout le personnel est au chômage partiel. Et pourtant, Christophe Hay respire enfin.
C'est une bouffée d'air, c'est beaucoup de soutien, moral, physique. C'est pour moi quelque chose d'énorme. Tous autant qu'on est, on rêve un jour d'avoir notre nom dans ces cuisiniers de l'année.
Si le restaurant est fermé, la cuisine, elle, reste ouverte. La machine pour mettre les sauces sous vide a trouvé sa place aux côtés des plaques de cuisson.
C'est une des plus jolies chairs de poisson qu'on a en eau douce.
La carpe à la Chambord, spécialité maison avec son fumet au vin rouge, est dressée dans des boîtes en carton. Voilà.
Donc la boîte, on vient la mettre bien à plat dans ce sac. Ce qu'on voulait, c'était retranscrire exactement ce qu'on a toujours fait. Donc garder cette qualité au niveau des produits et au niveau de l'exécution. Et finalement, on s'aperçoit que les guides sont là, ils nous soutiennent.
Le goût vrai plutôt que le goût fort, la devise du chef qui fait des miracles avec une carotte et un morceau de fromage de chèvre. Le produit, oui, mais toujours local pour ce pionnier du circuit court qui a demandé à ses petits producteurs de l'accompagner pour la remise de prix à Paris. À Montlivault, Pierre Arvulo, Europe 1.
Et puisqu'on a des raisons de se plaindre en ce moment, je voulais vous livrer une petite carte postale de la Suède. Un instant, la Suède, où il n'y a pas eu une seule heure d'ensoleillement depuis le début du mois de décembre. 10 jours de suite donc. Il y a même une ville où c'est déjà cuit jusqu'au nouvel an, puisqu'à Kiruna, tout au nord, le jour s'est couché pour la dernière fois de l'année. Mardi, à 11h48 du matin, le soleil ne remontera pas au-dessus de l'horizon avant 2021. Comme quoi, vous voyez que la vie est belle en France.
Merci François Geffrier pour, j'allais dire ce point météo, mais ce point jour-nuit suédois de la fin du journal de 8h. Merci François. 8h12 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un déconfinement moins large que prévu à partir du 15 décembre. L'exécutif adapte sa stratégie. Alors qu'en pense l'opposition ? Qu'aurait-on pu faire différemment ? Le député européen et vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella, nous répond dans un instant.
A tout de suite, il est 8h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, l'eurodéputé Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National.
Bienvenue et bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
À partir du 15 décembre, c'est donc un déconfinement moins large que prévu. Lieux culturels qui restent fermés, couvre-feu durci. Tout d'abord, sur le principe, l'exécutif adapte sa stratégie à l'évolution de l'épidémie. C'est logique, vous le comprenez ?
Oui, c'est logique et je vais vous dire, je suis très heureux pour les Français ce matin parce qu'ils vont pouvoir se retrouver en famille et fêter Noël. C'était pas gagné, on peut pas dire que l'année 2020 a été l'année du bon sens. Donc effectivement, je me réjouis que les Français puissent se retrouver en famille après cette année qui a été vraiment difficile pour tout le monde. J'ai vu que d'après une étude de la Fondation Jean Jaurès, 27% de nos dirigeants d'entreprise avaient eu en tout cas l'intention de mettre fin à leur jour. Qu'un Français sur 5 est aujourd'hui en état dépressif et que beaucoup de nos compatriotes, jusqu'à un tiers d'après une étude qui a été également publiée, de nos compatriotes pourraient renoncer à faire des cadeaux à leurs enfants faute de moyens. Donc l'année a été difficile pour tout le monde, moralement, psychologiquement, et vraiment je me réjouis qu'on puisse se retrouver en famille en Noël. Je crois que c'était important. Maintenant pour le reste, on est en train encore une fois de payer une gestion très technocratique, très bureaucratique. On a fixé une jauge un petit peu arbitraire de 5000 contaminations au 15 décembre sans qu'on sache véritablement pourquoi. On en paye aujourd'hui une certaine forme de technocratie. On a fait espérer à beaucoup de secteurs économiques, notamment le secteur de la culture, les cinémas, les théâtres, qu'on pourrait rouvrir le 15 décembre pour ensuite finalement leur dire quelques jours auparavant, non.
Maintenant,
concernant les restrictions, évidemment, le 31, je crois que c'était nécessaire.
Très bien, donc vous soulignez en tout cas, vous approuvez la sanctuarisation de Noël, ça c'est important, décision importante.
Bien
mais
sûr.
Qu'auriez-vous décidé au Rassemblement National, Jordan Bardella, pour ne pas désespérer les Français, tout en veillant à ne pas ouvrir les vannes à une plus grande circulation du virus ? Parce que, par exemple, est-ce que vous auriez maintenu l'ouverture des cinémas, des théâtres et des musées le 15 décembre ?
Encore une fois, il y a un problème de cohérence et beaucoup de Français ne comprennent pas qu'on puisse se masser dans des heures de pointe dans le métro, dans le RER, notamment en région parisienne, et qu'on ne puisse pas, avec un masque, avec une séparation d'un siège sur deux, aller au cinéma ou au théâtre. Donc encore une fois, il y a un problème de cohérence dans la stratégie du gouvernement. Il va falloir aider nos entreprises, il va falloir donner un cap aussi à nos restaurateurs.
Pour l'instant, la date du 20 janvier
l'union des
est
métiers,
maintenue.
L'union
en fonction
des métiers de l'hôtellerie
de la situation.
Nous disait il y a quelques jours, il y a quelques semaines, que 65% des restaurateurs pourraient ne pas se relever d'une fermeture, d'une ouverture, pardon, lapsus à la fin du mois de janvier. Donc il faut évidemment pouvoir les aider, décréter des exonérations de charges.
Mais Jordan Bardella, là vous nous faites, et vous avez raison, c'est le diagnostic que nous partageons tous, malheureusement il est noir, mais qu'auriez-vous décidé de différent hier, par exemple, pour ne pas désespérer tous ces secteurs-là dont vous parlez ?
Encore une fois, on ne peut pas demander à nos personnel du milieu, aux salariés, aux travailleurs du milieu de la culture, de faire des efforts si on n'a pas un minimum de cohérence. Et encore une fois, on ne peut pas dire aux Français que on permet de se masser massivement dans les transports et notamment dans le RER ou dans le métro et en même temps de fermer un certain nombre de lieux. Et il faut aussi, je crois, organiser dès Noël des grandes campagnes de tests. J'ai vu que le gouvernement a été très réticent hier sur cette idée de campagne de tests. L'Autriche vient d'organiser dès le mois de décembre
un totem, une campagne. A dit
mais il faut
le
pas
ministre
en faire,
de la Santé, c'est-à-dire ne pas le faire et considérer tout permis après.
Il ne faut pas en faire
après.
Un totem, mais ils ne peuvent pas dire, si vous voulez, du matin au soir, tout est le contraire de tout. Donc il faut arrêter de prendre les Français pour des enfants. Il faut permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir se tester massivement. L'Autriche a indiqué qu'elle souhaitait, elle aussi, sauver l'esprit de Noël, permettre aux familles de se retrouver et donc, effectivement, permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir être testés d'ici la fin du mois.
On comprend, mais j'insiste une nouvelle fois à vous entendre quand même ce matin, Jordan Bardella. Moi, j'ai l'impression, mais dites-moi si c'est le cas, que vous n'auriez pas pas décidé différemment hier. C'est quand même important en fonction des nouveaux indicateurs.
Mais nous serions en tout cas sortis de cet absurdistan totalitaire, pour reprendre les mots de vos confrères de la presse allemande, de Die Zeit, qui nous regardent un peu à l'échelle européenne avec des grands yeux quand ils voient que, par exemple, nous continuons d'imposer des attestations pour sortir son chien, pour se déplacer. Je crois que ça participe quand même d'une certaine forme de dépression psychologique des Français. Et il faut en tout cas qu'on sorte de tout cela assez vite. Il faut tout faire pour éviter aujourd'hui une troisième vague qui pourrait intervenir début janvier. Et c'est vrai que la prudence que souhaite le gouvernement le 31, et évidemment c'est naturel, permet aussi d'éviter une troisième vague dès la mi-janvier, ce qui retarderait évidemment la réouverture
vous
des restaurateurs.
Oui. Jordan Bardella, vous citez l'Allemagne et ce journal il y a 15 jours, mais je voudrais vous citer la phrase il y a 2 jours, celle-ci. La France a obtenu des succès important, impressionnant, alors qu'en Allemagne, l'élan de la deuxième vague n'a malheureusement pas été brisé. Savez-vous qui a prononcé cette phrase ? C'est Peter Altmaier, ministre allemand de l'économie, qui loue la gestion française.
Mais ce n'est... Mais attendez, que les Français ont fait des efforts, qu'ils fassent saluer les efforts des Français, c'est évidemment normal et évidemment qu'il faut saluer l'effort de nos compatriotes. Maintenant, si vous voulez, c'est pas celui qui a le mieux géré. Moi, je ne fais pas ce genre de calcul.
Je vous dis comment aujourd'hui la gestion française est vue outre-Rhin.
Si les indicateurs sont bons, évidemment que je m'en réjouis. Les indicateurs ne sont pas bons s'agissant des contaminations, mais on peut se réjouir que le nombre d'admissions en réanimation est considérablement baissé, qu'il va continuer à baisser d'après l'Institut Pasteur et qu'on est aujourd'hui dans des scénarios en termes d'admission et réanimation qui est meilleur que les projections les plus optimistes que faisait l'Institut Pasteur il y a quelques semaines. Maintenant, il faut tout faire aujourd'hui pour éviter une troisième vague. Il est évident que le vaccin aujourd'hui apparaît comme l'une des possibilités, l'une des opportunités scientifiques.
Et vous êtes favorable au vaccin, vous le dites depuis un certain temps.
Pour éviter une troisième vague,
vous-même, Jordan Bardella.
Je suis plutôt favorable à la vaccination, en tout cas à la libre vaccination de nos compatriotes. Mais pour cela, il faut évidemment la transparence. Lorsque j'entends le professeur Combes nous indiquer qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, il faut évidemment la transparence. J'entendais il y a quelques jours sur votre antenne Axel Kahn, le président actuel de la Ligue contre le cancer, s'inquiéter d'une certaine forme d'opacité dans les négociations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Union européenne, qui a passé une commande de près de 2 milliards de doses auprès de 6 laboratoires différents, est très opaque sur
les
négociations.
Vous êtes député européen, Jordan Bardella, et je crois,
seront
les députés européens seront choisis.
Mis à part
pour
une pièce sécurisée où ils pourront consulter quelques minutes les négociations. Mais encore une fois, on a appris ça par la presse et ça ne me semble pas normal, en tout cas, que nous apprenions ça par la presse.
J'apporte juste une précision à votre argumentaire.
Vaccin.
Hier, c'est la New, il faudra vérifier le nom exact, mais c'est une revue apparemment qui a commencé à préciser la littérature scientifique autour des vaccins, indiquant que les effets secondaires étaient limités. Voilà, c'est juste pour apporter un argumentaire.
Ce n'est pas ce que disent tous les médecins, et le problème de ce gouvernement, si vous voulez, c'est qu'ils sont responsables aujourd'hui de la perte de confiance.
Mais ils ne sont pas responsables des effets secondaires des vaccins en général.
Non, mais ils
sont
responsables en tout cas de la perte de confiance. Et lorsque l'on voit effectivement les différents mensonges qu'il y a pu avoir ces derniers mois, faut pas porter de masque, ensuite faut porter un masque, il faut pas se faire tester, ensuite priorité à la relance, il ne faut pas partir en vacances, puis on reconfine. Tout cela ne participe pas effectivement d'une stratégie de confiance à l'égard de la population. Et ils sont responsables aujourd'hui du fait qu'une partie de la population ne souhaite pas se faire vacciner parce que la population n'a pas confiance. À titre personnel, j'attendrai aussi probablement de voir, comme beaucoup de Français, je ne serai peut-être pas le premier à me ruer devant les laboratoires. Ces vaccins notamment utilisent une nouvelle méthode vaccinale qui est l'ARN messager, qui n'a jamais été exploité à l'échelle de l'humanité, même s'il y a eu des tests sur 40 000 personnes. Donc évidemment qu'il faut être prudent et surtout effectivement rassurer les Français.
Vous appelez à la cohérence et vous dites à juste titre, et on vous rejoint, il ne faut pas de troisième vague. Mais en même temps, vous me dites il y a des réticences sur les vaccins.
Bien
en même temps, vous n'êtes pas opposé à la fermeture de certains secteurs. J'ai du mal à comprendre.
Bien sûr qu'il y a des réticences. Est-ce que vous serez par exemple, vous, la première devant le laboratoire lorsqu'ils nous auront la possibilité de nous faire vacciner? Bon, je crois que ça dépend du libre arbitre.
Phases, en tous les cas, les étapes énoncées.
Quand on entend Monsieur Vaccin, Alain Fischer, nous expliquer qu'aujourd'hui on ne dispose pas des éléments scientifiques, on ne dispose que des communiqués officiels des agences.
Il est transparent, il vous dit la vérité. La littérature scientifique va arriver en son temps.
Et donc, il faut la transparence effectivement sur les effets secondaires, mais aussi la transparence sur les négociations. Et il est bien normal que les Français soient assez prudents. J'ai entendu la Suisse, par exemple, indiquer qu'elle attendrait plusieurs semaines supplémentaires pour avoir le recul suffisant. Donc, il faut tout faire pour éviter une troisième vague. Le vaccin est évidemment une opportunité, ce n'est pas la seule, mais il faut dès maintenant anticiper. Après la première vague, on nous a dit qu'on allait multiplier par deux, notamment le nombre de lits de réanimation. Mm-hmm. Ça n'a pas été fait. On nous dit aujourd'hui qu'il faut recourir à peut-être demain des tests autosalivaires, des tests antigéniques. C'est bien, mais il faut être capable, effectivement, alors, encore une fois, de l'anticiper.
Autre sujet,
et évidemment de soutenir nos entreprises.
Dans l'actualité, Jordan Bardella, c'est la lutte contre le séparatisme. Et depuis l'interview accordée à Brut, le Rassemblement national accuse Emmanuel Macron de faire du séparatisme et du racialisme. Est-ce que vous avez un exemple étayant cette accusation ?
Oui, le président de la République ne peut pas pointer ce qu'il considérait comme du racisme systémique dans la police en accusant une partie de nos forces de l'ordre, en tout cas de discrimination au contrôle au faciès, et nous expliquer dans le même temps qu'il va permettre aux Noirs d'avoir leur statut, aux Blancs d'avoir leur statut. Cette ségrégation, précisément, dans la sémantique, est effectivement une forme de séparatisme. Lorsqu'il nous explique qu'il va, par exemple, renforcer l'apprentissage de l'arabe à l'école, alors même qu'un tiers des jeunes arrivant en CP, ne maîtrisent pas correctement le français.
Mais en quoi des noms issus de la diversité pour renommer certaines rues françaises, c'est du séparatisme ?
Il ne dit pas ça.
Il dit,
il est très clair. Il souhaite que les Noirs aient leur statut, que les Blancs aient leur statut. Je trouve que cette ethnicisation du débat, cette américanisation du débat, cette racialisation de la société désunit le peuple français. Et qu'en réalité, on fait nation parce que il y a un roman national, parce qu'il y a une histoire commune, parce qu'il y a un creuset national. Et c'est autour de cela qu'est basée l'assimilation républicaine. On ne peut pas arriver, en fonction de son ethnie, chacun avec son roman, chacun avec son histoire, chacun avec sa culture, parce que comme ça, on ne peut pas effectivement se réunir autour de la communauté nationale.
Je peux vous prendre un exemple.
Quand il nous dit pendant la campagne présidentielle que la colonisation a été un crime contre l'humanité, il n'unit pas le peuple français, il est en tout cas un facteur de désunion. Donc effectivement qu'Emmanuel Macron est un facteur de désordre, effectivement qu'il est aujourd'hui
le
premier séparatiste
puisque
de France.
Vous dites que nommer certaines rues permet de, en tout cas, va accélérer la division.
Ça existe
la division.
Déjà, soit dit en passant.
Une rue par exemple, au nom de Shérif Kadhi, savez-vous qui est-ce ? Naturalisé Yves Kadhi, officier français d'artillerie, premier musulman de l'Algérie française admis à l'école polytechnique. En quoi est-ce du racialisme que de promouvoir en tant que symbole pour tous et conférer son nom à une rue de notre
existe,
beau pays?
Non mais tout cela existe
pourquoi
déjà.
Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi est-ce que ce serait du séparatisme?
Je vais vous dire, tout cela existe déjà. Il y a en Seine-Saint-Denis des lycées qui s'appellent les lycées Rosa Parks. Mais lorsque le président de la République reprend à son compte toute une partie du discours des indigènes de la République ou toute une partie de l'extrême gauche qui vise à racialiser le débat, qui vise à expliquer notamment que la police fait du contrôle aux faciès et qu'elle contrôlerait davantage les gens de couleur noire, les gens d'origine arabe, plutôt que les Blancs dans un certain nombre de quartiers, eh bien, effectivement, Emmanuel Macron donne des gages à toute une partie de la gauche, toute une partie de l'extrême gauche anti-flic. Et le problème
pourquoi
d'Emmanuel Macron, si vous voulez...
Pourquoi les Blancs sont plus contrôlés, selon vous ?
Pardon ?
Les Blancs sont plus contrôlés, puisque vous faites une
comparaison.
Je dis
qu'il n'y a pas de contrôle aux faciès dans la police et que la police n'est pas raciste. Il y a en revanche une surreprésentation de l'immigration dans la délinquance. Enfin, je veux dire, tous les chiffres aujourd'hui nous le disent. J'entendais il y a quelques jours le parquet de Paris nous expliquer que 75%, trois quarts d'ailleurs, des mineurs qui étaient déférés étaient des mineurs clandestins. Donc il y a les faits et il y a toute une partie du discours haineux de l'extrême gauche que le président de la République alimente. Et en tout cas, je crois que c'est un facteur de désunion et probablement que le rôle du prochain président de la République, qui, je l'espère, sera Marine Le Pen en 2022, sera de réunir le peuple français.
Merci en tout cas, Jordan Bardella.
Merci à vous.
D'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h27.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Et d'abord cette annonce qui vient de nous parvenir après une nuit de négociations à Bruxelles. Un accord sur le climat. Les 27 réduiront d'au moins 55% leurs émissions de CO2 d'ici 2030. Demain se tient à Londres un sommet sur le climat, jour anniversaire de l'accord de Paris en 2015. Coup dur pour le laboratoire français Sanofi dont le vaccin anti-Covid ne sera prêt qu'en fin d'année prochaine. Annonce ce matin au moment où d'autres démarrent leur campagne de vaccination, notamment Pfizer-BioNTech. Pourquoi ce retard, Eve Roger ?
Eh bien, Sanofi le reconnaît ce matin, les essais de la phase 2 ne sont pas aussi bons que prévu. Si le vaccin est efficace sur les 18-49 ans, il ne l'est pas assez sur les personnes plus âgées. Il faut améliorer le produit, dit le laboratoire, et un nouvel essai de phase 2 va commencer en février avec la nouvelle formule. D'où le retard de la phase 3, celle qui teste le vaccin à grande échelle. Ce sera au deuxième trimestre 2021, avec des premières doses, si ça marche, à la fin de l'année prochaine. Alors ce retard ne remet pas en cause la campagne de vaccination en France, qui va bien démarrer en janvier avec le vaccin Pfizer-BioNTech, puis sans doute l'américain Moderna. Mais pour tous ceux qui souhaitaient se faire vacciner français, eh bien, il va falloir attendre.
Ève Roger, Sanofi espérait produire 1 milliard de doses l'an prochain avec le britannique GSK, objectif qui est donc impossible à atteindre. Au revoir le confinement, bonjour le couvre-feu. Jean Castex a annoncé hier soir un déconfinement plus progressif que prévu à partir de mardi. Très concrètement, Guillaume Biec, quelles sont les nouvelles règles ?
Alors, en résumé, dès mardi prochain, c'est déconfinement pendant la journée et couvre-feu le soir et la nuit. En clair, nous pourrons à nouveau nous déplacer librement la journée sans avoir besoin d'une attestation et d'un motif valable, même pour changer de région, même pour partir en vacances. Mais à partir de 20h et jusqu'à 6h du matin, là, couvre-feu sur tout le territoire, sortie interdite, à quelques exceptions près pour lesquelles il faudra une dérogation et un justificatif. Si vous rentrez tard du travail, si vous devez aller à l'hôpital ou à la pharmacie de garde ou encore sortir le chien. En fait, ce sont les mêmes règles que lors du précédent couvre-feu, rappelez-vous, fin octobre. Si vous vous déplacez et que votre train arrive après 20h par exemple, votre billet servira de justificatif. En revanche, si vous prenez la route, essayez d'arriver avant l'heure limite. Ce couvre-feu strict sera aussi valable la nuit du Nouvel An. Les fêtes, les rassemblements seront interdits. La sanction est toujours la même, une amende de 135 euros. La seule exception à ce couvre-feu, c'est la nuit de Noël. Une trêve entre le 24 et le 25 décembre.
Guillaume Biet, et c'est la douche froide pour le monde de la culture. Cinéma, théâtre ou musée devront rester fermés 3 semaines de plus. Idem pour les cirques, les casinos ou encore les stades. Et puis une flopée d'annonces chez Disney, notamment un nouveau film dans l'univers Star Wars. Il s'appellera Rogue Squadron et sortira à Noël 2023.
Et une dizaine de séries Star Wars. On vous a fait toute la liste dans le journal de 8h. Énorme annonce du côté du groupe Disney cette nuit. Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 8h30. Il est 8h33 sur Europe 1. La météo dans un instant.
L'instant d'Arty. Et si on demandait une nouvelle télé au Père Noël ?
Oui, bien sûr, oui. Et puis les lutins viendront l'installer.
C'est Noël chez Darty. Jusqu'au 31 décembre, le téléviseur LG LED NanoCell 100 Hz est à 999 euros au lieu de 1299, soit 300 euros d'économie. Et la livraison et l'installation sont gratuites.
Voir conditions en magasin ou sur darty.com.
8h34, la météo avec Laurent Cabrol.
Eh bien, la perturbation qui était hier sur la partie ouest de la France a démarré. Elle est partie ce matin, elle est repartie vers les régions de l'est. C'est assez curieux ce qui s'est passé, c'est-à-dire que toute la partie ouest était hier sous la pluie, alors que dans l'est, ça allait, disons, relativement bien. C'était nuageux, mais enfin, sans trop d'intempéries. Et puis, dans la nuit, l'air froid qui était dans l'est, l'air froid est tombé, si je puis dire, ou s'est réchauffé, ou a radouci. Résultat, eh bien, la perturbation traverse maintenant le reste de la France. Et elle est à environ une vitesse de 3 à 4 heures de pluie, 300 km de large. Et cette pluie, eh bien, vous allez la subir pendant pratiquement une bonne partie de la journée. Si vous êtes sur le nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, l'Auvergne, la vallée du Rhône, même le Midi-Pyrénées, le Languedoc, le Roussillon, la Provence, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes, et la région parisienne qui, elle, est touchée depuis ce matin, 3-4 heures du matin. Partout ailleurs, c'est-à-dire dans les régions où les pluies sont passées hier, eh bien, c'est un régime d'averses. Bon, vous l'avez bien compris, les averses suivent la pluie et la pluie précède des averses. De toute manière,
si j'ai bien suivi, après la pluie, des averses, et après les averses, de la pluie.
Oui. Mais ça, c'est quand même de la pluie. Quoi. C'est quand même de la pluie. Et j'essaie d'être précis, je vois que j'ai raté mon coup.
Non, c'est réussi, c'est très réussi, mais vous me la ferez pas, il va pleuvoir tout le temps. Quoi. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Merci mille fois. 8h35 sur Europe 1. Jimmy Mohamed s'installe, notre santé dans un instant. Tiens, je vous l'ai promis ce matin, de la musique. On va essayer de redonner un peu le sourire au monde de la culture. On a écouté Jane Birkin, on a écouté Julien Clerc, on a écouté peut-être toute la bande son de Star Wars. Un peu de rap ce matin. Alors pour certains, vous connaissez deux des protagonistes de ce groupe au moins, Black M et Maître Gims bien sûr. Section d'Assaut, le groupe de rap parisien Section d'Assaut qui annonce son retour. Alors on les attendait sur un album, on sait qu'ils travaillent ensemble, ils ont annoncé une tournée à partir de l'été prochain. Attention, les préventes en vente à partir d'aujourd'hui, 10h, Section d'Assaut de retour. Il y a une date notamment au mois de septembre à la U Arena Nanterre, Paris La Défense. Nous recevions la patronne de la U Arena à 6h40 avec Sébastien Krebs qui nous disait que pour Céline Dion au mois de mars par contre, il y avait de grandes chances d'annulation. Vous êtes sur Europe 1. Beaucoup de musique, le monde de la culture va mal, mais du coup on les pousse un peu et on les écoute le matin. 8h36. Notre santé, notre planète dans quelques secondes. Bon réveil sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avec vous ce matin, nous allons parler des rêves que nous faisons. Se souvenir de ces rêves ne serait pas signe d'un sommeil de qualité?
Alors oui, c'est vrai, il faut rappeler d'abord que les rêves, c'est un phénomène extrêmement complexe où vous avez certaines zones du cerveau qui vont s'activer, notamment les zones qui vont produire de l'image. C'est pour ça que vous avez souvent un caractère visuel dans vos rêves. Et au contraire, vous avez d'autres zones du cerveau, notamment celle de l'esprit critique ou celle qui va se charger de placer les objets dans leur contexte, qui vont s'éteindre, qui ne vont plus marcher. C'est pour ça que parfois on fait des rêves aberrants avec des fraises immenses, des éléphants roses. Et bien, c'est notre cerveau qui nous fait
témoignage.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le rêve a une fonction. Le rêve sert de soupape de sécurité pour évacuer notamment le stress et la pression qu'on a accumulé en journée. C'est un peu le gardien de notre sommeil. Alors, en ce qui concerne le fait de se souvenir de son rêve, tout d'abord, vous avez plus de chances de vous en rappeler si jamais vous vous réveillez en plein milieu de celui-ci. Mais malgré tout, si jamais vous vous souvenez très régulièrement de vos rêves, eh bien c'est peut-être le signe d'un sommeil de moins bonne qualité. Car pour se souvenir du rêve, il faut un processus de mémorisation. Et qui dit mémorisation, dit processus d'éveil. Et donc, si vous vous en souvenez régulièrement, c'est que vous avez peut-être un sommeil un peu plus fragmenté ou au contraire, que vous accumulez tellement de pression dans la journée que vous en souvenez un peu plus. C'est peut-être pour ça que les femmes se souviennent un peu mieux de leurs rêves que les hommes.
Et faire trop de cauchemars, c'est pas forcément bon signe non plus, j'imagine.
Alors c'est vrai, les cauchemars commencent souvent vers l'âge de 3 ans et ils diminuent ensuite à partir de l'âge de 10 ans. Il faut vraiment distinguer un cauchemar d'un mauvais rêve, puisque dans un cauchemar, l'intensité est telle que vous allez vous réveiller. Les cauchemars, c'est des rêves troublants qui vont survenir dans un moment du sommeil particulier, au moment du sommeil paradoxal. Alors les cauchemars surviennent de façon occasionnelle dans 85% de la population, donc c'est quelque chose de très fréquent. En revanche, il y a un consensus sur le fait que si vous faites plus d'un cauchemar par semaine, eh bien c'est révélateur d'un trouble clinique, du stress, de l'angoisse, de la névrose ou un autre trouble psychologique. Les cauchemars à répétition peuvent entraîner de l'insomnie puisque vous allez avoir une crainte de dormir, ça va entraîner une privation de sommeil et derrière un rebond des cauchemars. Donc vous l'aurez compris, pour passer une bonne journée, ça commence par passer une bonne nuit de sommeil.
Écoutez, je retiens aussi que moi, je me rappelle jamais, mais absolument jamais de mes rêves. C'est que j'ai un sommeil de qualité.
Peut-être un peu de meilleure qualité. Et puis souvent, les hommes, les petits garçons, les incitent un peu moins à se souvenir de leurs rêves que les petites filles. Il y a peut-être une histoire psycho-éducative.
Peut-être à creuser aussi là-dessus. Merci beaucoup, le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed, qu'on retrouve de 15h à 16h tous les jours, sans rendez-vous, avec Mélanie Gomez. 8h40 sur Europe 1, notre planète, avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Fanny, vous vouliez ce matin nous parler d'une appli, une application qui aurait le pouvoir de calmer le jeu entre agriculteurs et riverains.
Oui, je vais vous parler d'une solution très simple pour améliorer les relations entre agriculteurs et leurs voisins, parfois un peu crispés. Les expressions de mépris ou d'incompréhension de certains riverains vis-à-vis des agriculteurs qui travaillent sur les parcelles à proximité des habitations sont encore trop nombreuses sur fond de polémiques autour du glyphosate et autres produits révélés comme dangereux pour la santé. Et si, je vous le propose ce matin, et si une application pouvait pacifier les relations entre ces deux parties? Ça peut aider en tout cas. Je vous parle d'une application qui s'appelle AgriCivis, contraction entre agriculture et civisme, qui vise à améliorer la communication entre les paysans et leur voisinage.
Et comment ça marche ?
Alors c'est un petit peu comme un petit mot que vous laisseriez dans la cage d'escalier de votre immeuble pour signaler à vos voisins que vous allez faire des travaux susceptibles de les déranger. Généralement, on apprécie être averti et à contrario, quand on ne l'est pas, ça peut créer effectivement des petites tensions. Avec les histoires de champs de culture et d'habitations mitoyennes, c'est pareil. L'appli est une façon d'avertir tout le monde. Cela permet à l'éleveur, le viticulteur, le cultivateur, le maraîcher d'avertir les personnes dont la maison se situe à côté du terrain sur lequel il va y avoir une intervention, que ce soit un épandage de fumée, un déplacement de troupeaux, élagage, traitement non chimique, vendange nocturne, etc. Et cela permet aussi surtout de lever le doute sur la pulvérisation de produits suspicieux. Pour cela, l'appli géolocalise la parcelle et permet aux paysans de signaler la nature, la date et l'horaire de son intervention. Une application qui est déjà très utilisée en Saône-et-Loire, c'est là où elle est née. Et aujourd'hui, elle est à disposition des chambres d'agriculture qui trouveront probablement opportun de s'en servir sur tout le territoire.
Et cela permet en plus d'instaurer un dialogue entre des voisins qui souvent ne se parlent plus.
C'est ça. C'est parce qu'ils ne se parlent pas que les pires allégations et extrapolations sont faites à l'encontre de la profession agricole. Cette application AgriCivis est aussi un moyen de rentrer en contact avec les agriculteurs et ainsi peut-être mieux en comprendre le métier, lever les soupçons sur leurs pratiques et les soutenir lorsqu'ils cherchent à s'améliorer et à trouver des solutions pour s'adapter aux nouvelles demandes sociétales.
Fanny Agostini, merci Fanny. Notre planète tous les matins sur Europe 1. 8h43 dans un instant, Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent.
Europe Matin, le 7-9.
Mathieu Béliard.
8h46, on les retrouve. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard. Allez, l'actu, oui. Un petit rappel.
Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez. L'info du jour, ce sont, bien sûr, les annonces de Jean Castex hier soir. Et sur cette certitude, même si on pourra se voir en famille, Noël s'annonce décidément difficile. Bonjour à tous. Voilà. J'ai entendu que l'on parlait de moi sur Europe 1. Et c'est votre premier ministre, Jean Casse-Fête. Oui, l'homme qui casse les fêtes. À Noël, au Nouvel An, ne faites pas trop la fête. Ça n'interdit pas néanmoins, chère Julie, cher Mathieu, de se réjouir, mais dans sa tête et tout seul. Jean, s'il te plaît, Jean, excuse-moi. Oui. Pardon, excuse-moi, bonjour, vous êtes tout de suite. Jean, arrête, s'il te plaît. Tu déprimes tout le monde. Même ton accent du soleil ne suffit plus. Okay, hein, dès que tu apparais, on a envie de se flinguer. Hein, ok.
Bon, mais c'est vrai qu'on est un peu déprimé hein, par cette épidémie qui n'en finit pas. À ce sujet, vous aviez déclaré « J'ai demandé au gouvernement de réfléchir à des conditions d'isolement des personnes, y compris de manière contraignante. » Mais ça, on est où ça? On n'a rien vu venir, monsieur Macron?
Eh bien, je vais vous répéter, c'est exactement ça. C'est, j'ai demandé au gouvernement, vous l'avez très bien dit, et puis j'ai rien reçu. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, madame.
Bon, bah, si vous voulez, on va parler d'autre chose alors. Sur les violences policières, tiens, vous aviez demandé au gouvernement des propositions.
Des propositions, bah écoutez, pareil, pour l'instant, on va être concret, j'ai rien de foufou non plus.
Bon, alors, sur la jeunesse, vous aviez demandé au gouvernement de travailler avec les maires sur les quartiers défavorisés.
C'est vrai, vous me le rappelez, j'avais demandé ça. Non mais en vous parlant, je me rends compte qu'il faut que j'arrête de demander des trucs au gouvernement, en fait.
Bah, ça fait 3 semaines qu'à chaque problème, vous répondez « je demande des propositions au gouvernement ».
Ben oui, non mais moi, ça fait 2 ans et demi que je fais tout seul, hein. Et là, je vous dirai un truc, je suis à sec sur les idées. Hein, c'est pas toujours à moi de tout résoudre, ok, hein, il faudrait savoir, quand je fais les choses moi-même, on me dit « dérive autoritaire », et quand je demande au gouvernement, ça va pas non plus. Donc ça vous pose un problème que je demande aux autres de sortir les doigts du yonf, ok?
Oula,
excusez-moi, ma Julie, excusez-moi, je sais que c'est une heure de grande écoute, excusez-moi, non mais je suis crevé.
Bah oui, ça s'entend, allez, reposez-vous ce week-end.
Je vais lire le livre que m'a offert M. Cabrol.
Ah, c'est quoi ce livre?
La météo depuis 1000 ans.
Oula.
Il va dormir.
Ça va être bien. Allez, autre chose. Il a annoncé une campagne de dépistage massif en Rhône-Alpes. Il défend les stations de ski de sa région. Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes, est sur tous les fronts. Bonjour, monsieur Wauquiez.
Oui, bonjour, madame Julie. Bonjour, monsieur Béliard. Exactement. J'ai ordonné un dépistage massif dans mon beau massif.
Très bien.
C'est un beau slogan. Et pour ce qui est de la défense des stations, je suis ce matin dans un village de nos montagnes.
Oui, ça s'entend, oui.
Et je peux vous dire que c'est le désarroi. Ah. C'est le désarroi, oui. Les loueurs de matériel, les guides, les restaurateurs. Est-ce que l'État va entendre le cri de douleur de notre région?
Parce que...
s'il vous plaît, les gars, je suis en direct. Ok. Merci. Oui, vous pouvez m'enlever. Voilà, merci. Oui, tous les personnels, je le disais, souffrent. Tenez, les moniteurs de ski. La situation est épouvantable pour les moniteurs de ski. Toute l'année. Ils s'entraînent à devenir des beaux gosses bronzés qui skient la doudoune ouverte sur leur torse couleur de miel. Et là, ça ne servira à rien. Ils n'auront pas l'opportunité de draguer des touristes hollandaises. Leur vie de moniteur de ski n'a plus aucun intérêt, madame Julie, je vous le dis.
Alors, vous comprenez le président de la République. L'idée est d'éviter les clusters sur les pistes.
Madame Julie, les touristes ne sont pas en contact sur les pistes. Non, c'est surtout le soir, devant une raclette, qu'ils sont en contact. Ouais. Donc, ce qu'il faudrait interdire, il faut être logique. Ce sont, j'en parlais à Bruno Retailleau, ce sont les appareils à raclette qu'il faut interdire. L'épidémie s'arrêterait quasiment instantanément.
Ah, vous êtes sûr de ça, vous?
Mais écoutez, demandez à M. Béliard. Combien d'amis il a contaminé en les invitant à manger du fromage fondu? Demandez à M. Cabrol, en les conviant à partager un verre de vin chaud, combien il en a contaminé?
C'est pas peine de me mettre en cause à toutes les sauces, hein, parce que moi, de toute façon, le vin blanc, je partage pas. S'ils en veulent, mes amis, ben ils ont qu'à amener leur bouteille. Voilà.
Allons, Laurent, mais enfin, soyez partageurs un petit peu.
Non, rien du tout. De toute façon, j'invite plus personne à dîner hein, depuis que l'exécutif explique à qui veut l'entendre qu'il est surpris, hein, surpris par la météo. Hein, j'ai bien compris que, qu'il ne m'écoute pas. Personne ne m'écoute, je ne sers à rien. Hein, plus personne même. Et puis, de toute façon, j'ai compris que si je dînais tout seul chez moi en lisant des relevés de précipitations, ça n'allait pas manquer à grand monde.
Hein. Oh, Allez. Dans une interview sur BFM TV, Gérald Darmanin a dit souhaiter s'attaquer au problème des Black Blocs. Ce week-end encore, ces militants anticapitalistes radicaux ont saccagé des commerces et une agence bancaire.
Ouais, ben il est temps qu'ils s'attaquent au problème d'Aramnin. Parce que... enfin, que fait la police, hein? Black bloc partout. Police nulle part.
Ça,
Black
c'est Nicolas Barré.
Police
Nicolas,
nulle part.
Notre éditorialiste économique.
Oui, bonjour Julie. Salut. Salut Mathieu. Salut Lolo. Ben enfin, non mais... Quand est-ce que la police va mettre un terme au agissement des Black Blocs? Moi, je peux pas tout faire. Oui, parce que j'étais sur place, moi, samedi dernier. Quand j'ai vu qu'ils s'en prenaient à une banque, j'ai décidé d'intervenir.
Ah bon,
oui. Oula. Je me suis mis les bras en croix devant l'établissement bancaire et je leur ai dit « Arrêtez! Ce crédit mutuel est innocent! Laissez ces dossiers clients tranquilles !»
Et alors?
Ben, j'ai rien pu faire. Hein. Ils ont réussi à passer quand même. Et ils ont ravagé toute l'agence. Le petit bureau, ils l'ont ravagé, le petit bureau où on endosse les chèques. Avec le stylo bille rattaché à un pied par une petite chaînette avec des petites boules.
Ah ouais?
Ils l'ont cassé, tu sais quoi? Ils l'ont cassé.
Non.
Ils ont démoli l'armoire de fichiers clientèle.
Oh là là là.
Ils ont même brûlé des relevés de compte épargne logement, les salauds et des connevis. Tous les documents afférents à la gestion des portefeuilles d'action des petits porteurs enfumés,
j'ai dit. Nicolas.
Faudrait mettre ces gens-là en prison,
mais
franchement.
Allez, calmez-vous.
En perpétuité.
Nicolas Barré, calmez-vous.
Du coup, je vais fonder un bloc opposé au Black Bloc. Le bloc saumon, voilà.
Oh. Hein,
oui, en hommage au page saumon du Figaro.
Ah,
on sera tous habillés en rose et on ira défendre les LCL, les HSBC, les crédits mutuels. Hasta la vista, la Victoria.
Nicolas Barré. Dans tous ses états.
Hasta la Victoria. C'est...
Non, ça ira.
Le bloc saumon, je garde.
La vaccination contre le coronavirus a débuté en Angleterre et en Russie aussi. Le Canada vient d'autoriser, lui aussi, un vaccin. Michel Simès, est-ce qu'on peut craindre les effets secondaires de ces vaccins?
Bonjour Marina. Bonjour. Oui, ou Moudan-Riana, entre deux belles blondes, mon cœur balance.
Je suis au milieu,
bonjour
alors.
Mathieu, bonjour à mon collègue Jimmy Mohamed, bonjour au météorologue Laurent Cabrol. Eh bien écoutez, après la campagne de vaccination, il est possible que nous assistions à l'apparition d'un effet secondaire dans 9 mois, à savoir bien sûr un baby-boom.
Hein,
ah oui, bien sûr, après avoir passé 2 confinements sans pouvoir toucher qui que ce soit, on en est certain, ce sera la fête du slip, la foire au béant, la kermesse au luisant.
Oh là 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 là, mais vous n'exagérez pas un peu là.
Mais pas du tout Marina, et tout le monde aura ses chances, c'est la nouveauté, vous savez, quand on n'a pas mangé pendant 3 jours, même la nourriture du chien commence à faire envie. Eh bien, ce sera pareil, mais avec la libido. Occasion, vous l'avez compris, une occasion en or pour tous les défavorisés de la séduction, même les hommes qui ont des petites bulles de salive blanche au coin des lèvres, ou les femmes qui suent la moustache, tout le monde pourra pécho.
Oh là là, vous avez l'air bien convaincu par votre théorie, vous. Hein.
Évidemment, ma chère Marina, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vaccine les vieux en premier, histoire de limiter la casse. Mais quand même, il faudra penser à engager du personnel supplémentaire pour éviter que les EHPAD se transforment en remake du documentaire sur la chambre 2086 du Sofitel de New York.
Ah bah tiens, justement, on va en parler de ce documentaire événement qui est sorti sur Netflix et qui montre toute l'affaire DSK, chambre 2806. À noter que ce documentaire a été réalisé par Jalil Lespère. Vous savez, c'est le nouveau compagnon de Laetitia Hallyday. Bonjour Laetitia.
Ah oui, bonjour à tous, bonjour ma Julie. Ah oui, oui, c'est Mamour 3 qui a réalisé le documentaire. Alors je résume pour tes auditeurs. Mamour 1, il faisait des disques. Mamour 2, il faisait des omelettes. Et Mamour 3, il fait des films.
Et vous l'avez vu ce film, Laetitia?
Non, j'ai pas encore vu, mais je sais que Mamour 3, il a énormément travaillé dessus. Ah oui, il est très sérieux. Il est allé sur tous les lieux où Dominique Strauss-Kahn, il est allé comme un enquêteur, tu vois, comme une sorte d'Élise Lucet. Ah oui, non, il est sérieux. Il est allé au Bois de Boulogne, au Félina, au Paradise, au Cupidon, au Chandelle, à l'Overside, au No Comment, au Sexodrome, chez Jackie et Michel. Oh, franchement, il mérite. J'espère qu'il va avoir un César parce que pour le moment, la seule chose qu'il a eue, c'est un chlamydia.
Oh non !
Ça finit léger.
Oui, on peut le dire. Merci Nicolas Canteloup. À lundi, la revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Saluons les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. 8h55 sur Europe 1. Philippe Vandel est avec nous. Culture Média, 9h-11h, la matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Deux sujets aujourd'hui, deux infos médias du jour. En premier, une alliance. 4 groupes de presse quotidienne régionale qui vont créer Territoire TV, une structure qui vise à produire des programmes en commun et donc à être plus fort. On sera avec le président, directeur général du groupe Sud-Ouest, Patrick Vanry. Puis on va revenir sur l'émission 4 mariages pour une lune de miel que vous adorez. Malheureusement, elle est à l'arrêt, non pas à faute d'audience, mais pour cause d'absence de cérémonie de mariage et donc de tournage.
Ah bah oui.
On sera avec la présentatrice de l'émission, Élodie Vilmus. Au sommaire également, Arthur. Énorme émission lancée ce soir par TF1, ça s'appelle District Z. Jamais il y a eu un si gros décor à la télévision française. On parle de 900 000 euros de budget. C'est dans le Figaro ce matin par émission. Par émission, Arthur sera avec nous. Ouais, 900 000. Et puis l'humoriste Jérémy Ferrari, il présente la 7e édition de ses duos de l'impossible sur C8. Il va aussi nous parler de la tournée de son spectacle qui s'appelait Anesthésie Générale contre le système de santé publique. C'est pour Jimmy Mohamed qui hoche la tête, il a raison, et qui a été stoppé pour cause de virus, spectacle auto-prophétique.
Eh bien écoutez, Philippe Bordel, c'est la matinée qui continue tout simplement. Mais sur tellement. Europe 1, Culture Média jusqu'à 11h. Moi je vais vous retrouver lundi, c'est Pierre de Villeneuve qui vous réveille samedi, dimanche sur Europe 1, vous le savez. Lundi matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.